Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Au bout du foot, 20h30, 22h, Malik Eudy. Au bout du foot, 30 secondes chrono. Au bout du foot, quel choix pour quel résultat? Retrouvez chaque lundi Malik Eudy et toute la team d'Au bout du foot entre 20h30 et 22h sur Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Au bout du foot, en ce lundi 13 novembre 2023, ensemble, nous allons décortiquer l'actualité footballistique de la semaine écoulée. Et pour ce faire, je suis avec mes amis de tous les lundis, je vais commencer par notre ami Chakunza. Chakunza, bonsoir, comment
bonsoir,
ça va?
Bonsoir Malik.
Bien, ça se passe bien? Oui, t'as passé un bon week-end, une bonne semaine?
Oui, un bon week-end, vraiment animé, tout ça.
De foot?
Oui. Bien sûr, avec le Manchester City, Chelsea d'hier, 4-4, vraiment un match vraiment.
Tu as bien aimé, hein, dans tous les cas. On va également saluer Ibrahima. Salut Ibrahima.
Salut à tous.
Bien, ça va bien?
Oui, ça va, ça se passe
bien. Et toi aussi, tu as passé une bonne semaine, un bon week-end
oui,
de football?
Ça, j'ai passé un bon week-end, je me suis beaucoup reposé et j'ai regardé pas mal de matchs dont on parlera tout à l'heure.
N'est-ce pas? Papa Guélé, invité aujourd'hui dans Au bout du foot, consultant foot. Bonjour, bonsoir Papa Guélé, comment ça va?
Bonsoir, ça va.
Alors bien aussi, bon week-end, bonne semaine de foot?
Oui, ça a été. Nous avons passé un week-end spectaculaire footballistiquement parlant.
N'est-ce pas? On va décortiquer tout ça dans quelques instants. Également saluer notre ami du quotidien du sport, Stéphane Desenclos. Comment ça va Stéphane?
Ça va très bien, bonsoir à vous tous.
La forme Stéphane, t'as passé un bon week-end de football j'espère? T'as regardé les matchs hein, Stéphane?
Bah, oui, il fallait pas regarder trop la Ligue 1 en fait, il fallait regarder un peu le reste parce qu'en Ligue 1, il n'y avait rien de fameux non plus quand même, quoi. Faut y dire ce qui est. Maintenant, il y a aussi d'autres choses que le foot, donc oui, ça a été un bon week-end.
N'est-ce pas? Et puis notre ami Eladj va nous rejoindre dans quelques instants pour Au bout du foot. Juste avant, on va présenter le sommaire.
Au sommaire d'Au bout du foot de ce 13 novembre 2023, analyse des performances des clubs français en Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain et Lens en difficulté en Ligue des Champions. Le PSG a-t-il montré un manque de caractère face à l'AC Milan? Le RC Lens a-t-il fait preuve de naïveté dans son approche face au PSV Eindhoven? Nous y répondons. Également en Europa League, avec les bons résultats de cette quatrième journée des clubs français, est-on en droit de dire que le niveau de notre Ligue 1 équivaut à l'Europa League? Là encore, Au bout du foot répond. Équipe de France, comment Zaïre Emery apportera-t-il une réelle plus-value à la sélection nationale? Au bout du foot se prononce. Première Ligue, où est passé le Manchester United de Sir Alex Ferguson? Au bout du foot répond. Quel choix pour quel résultat? L'Olympique de Marseille est à 11 points du podium en Ligue 1. Est-ce une source d'inquiétude légitime? Sans la casette titulaire, l'Olympique lyonnais remporte sa première victoire en Ligue 1. Peut-on espérer une continuité dans cette performance? Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos, Kolo Muani, ni titulaire ni remplaçant. Est-ce une approche favorable pour densifier l'attaque des Parisiens? Au bout du foot répond. Au bout du foot, 7e numéro, première saison, analyse, commentaire, décryptage, pronostic. Bienvenue.
Et oui, le sommaire, il est dressé, il est planté. Hein, autant de sujets pour 1h30 de football, 100% foot sur Mon Paris FM. On va saluer notre ami Eladj. Salut Eladj, comment ça va?
Salut Malik, ça va et toi?
T'as passé une bonne semaine, bon week-end?
Ouais, ça va et toi?
Bah super bien, moi ça va très 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 bien. Les amis, on va commencer par un 30 secondes chrono. Hein, vous le savez, pendant 30 secondes, vous nous donnerez vos différents faits d'actu footballistique de ces 48, voire dernières 72 heures. On va commencer. Top, c'est parti.
Au bout du foot, 30 secondes chrono.
Chakunza, ton 30 secondes chrono.
Bon, moi, 30 secondes chrono, je dirais le but de Vinicius avec la poitrine qui marque. C'est un centre en retrait de Rodrigo, vraiment une belle action. Et Je sais pas vraiment qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour tenter ce geste là, mais vraiment, ça sort de l'ordinaire.
Tu as kiffé?
Ouais, j'ai vraiment kiffé.
Merci, Chakenza. Réaction, qui c'est qui souhaite reprendre? Oui, Papa Guélé?
Moi, c'est le match nul.
Non, une réaction par rapport à ce qu'il vient de dire. Oui.
Ah, c'est ma réaction? Oui, on a la même réaction, on a eu le même ressenti. Parce que c'est vraiment, c'était du génie.
D'accord. Burema, une réaction rapide, le but de la poitrine de Vinicius?
Oui, c'était un très beau but, une belle victoire du Real Madrid, un joli doublé de la part de Vinicius et de Rodrigo également.
Eladio, le but en question de la poitrine, ça te...
Ouais, non, c'est du génie, ils ont déjà tout dit. Hein.
Bon, voilà. 30 secondes chrono, c'est parti avec toi, Ibrahima.
Alors moi, je voulais parler du match nul entre Chelsea et Manchester City. C'était vraiment un beau match, on a vu de très beaux buts, de belles actions, belle performance de Chelsea qui revient plutôt bien, je ne m'attendais pas à ça venant de leur part. Manchester City, j'étais un peu déçu, mais finalement le résultat est au niveau du match, quoi. C'était le résultat attendu, et un beau match nul, et on espère voir d'autres matchs comme ça cette saison.
Merci Brahima, qui c'est qui souhaite réagir les amis? Oui, Chakenza.
Je pense que vraiment, le match, vraiment, je pense que Chelsea méritait largement de gagner ce match. N'eût été vraiment deux heureux. Et Thiago Silva, vraiment, qui se met un but. Lui-même, ben, ça, c'est une malchance. Et le deuxième but qu'il prend, tu connais, à part ça, bon, Chelsea, ils ont été meilleurs vraiment dans l'animation défensive, dans l'animation tactique. Et j'ai vu vraiment une équipe de Chelsea, vraiment, qui a envie vraiment de remonter la pente. Parce que là, déjà, 11e classement, avec tout ce qu'ils ont déboussé comme moyen. Donc Pochettino, il sait que vraiment si ça continue, il serait la sellette. Parce que lui, il a besoin de résultats.
N'est-ce pas, comme tous les entraîneurs du reste. Stéphane Desenclos, 30 secondes, chrono, c'est parti, c'est pour toi.
Et ben moi, ce qui m'a marqué, moi je vais revenir en Liga par rapport à vous, c'est la sortie de Luis Enrique en conférence de presse après le match de Reims, qui a critiqué Mbappé sur son jeu. Et je pense que c'est un symbole énorme du changement du PSG. C'est pas le départ de Messi, le départ de Neymar ou de Verratti, c'est ce comportement de Luis Enrique, et on peut pas lui donner tort. Et je pense que c'est énormissime. Jamais on a vu un entraîneur du PSG s'attaquer à une de ses stars comme ça, en plus en public. Alors il a
C'est fini Stéphane, on a dit 30 secondes, une réaction sur le 30 secondes chrono de notre ami du quotidien du sport, Stéphane Eladj.
Ouais, franchement Stéphane, je partage entièrement ton avis, je me suis dit que t'allais raconter des bêtises, mais non, franchement je partage entièrement ton avis. Après je pense que voilà, maintenant tous les médias le reprennent, il l'a critiqué, c'était pas vraiment méchamment, hein. Voilà, on voyait bien, il souriait, ouais. Voilà, il y avait un sourire derrière ça, c'est pour dire qu'il en attend encore plus derrière, et je pense que c'est ce qu'on attend un peu tous, en tout cas toutes les personnes qui connaissent un peu le football et qui supportent le PSG, je pense que, ou même qui supportent l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. En tout cas, ils veulent le voir encore progresser pour arriver dans une autre sphère encore.
Merci les amis. Papa Guélé, ton 30 secondes chrono, c'est parti.
Moi, il m'a déjà volé
le 30 secondes.
Le sujet, il a eu les 30 secondes. Donc, c'était Chelsea, Manchester City.
C'était ça, le 4-4 d'hier, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, allez, on va terminer avec notre ami Eladj. Eladj, ton 30 secondes chrono, il s'agit de quoi?
Il s'agit du Bayern Munich et de Harry Kane qui ne s'arrête plus. Harry Kane en Ligue des Champions, en Bundesliga, il enchaîne triplé sur triplé sur doublé. Je ne sais plus quoi penser, et franchement, voilà, je rejoins Stéphane qui en parlait la semaine dernière, et je pense que il va figurer parmi les trois prochains Ballons d'Or s'il continue comme ça, ça ne va pas être lauréat même.
Merci les amis, Harry Kane, hein. Moi j'ai pronostiqué, hein. J'ai dit c'est mon futur ballon d'or, hein. Si tant est que l'Angleterre arrive le plus loin possible au niveau de la Ligue des Champions. Wait and see, on transite tout de suite par la Ligue des Champions. Alors la Ligue des Champions, les amis, hein, analyse des performances des clubs français en Coupe d'Europe de façon générale. Mais on va commencer justement par le Paris Saint-Germain et le RC Lens, nos représentants en Ligue des Champions. Le PSG a montré un manque de caractère face à l'AC Milan. C'est une question que nous posons. Le PSG a été défait justement 2-1. Les amis, quelles sont vos réactions? Est-ce que, selon vous, le Paris Saint-Germain, ce soir-là, a manqué tout simplement de caractère? On va commencer avec notre ami Stéphane Desenclos. Stéphane.
Oui, bah c'est évident, hein, que que je pense qu'il a manqué de caractère, parce que on a vu à l'aller, et je pense que sur même après au retour, après sur individuellement, je trouve que Paris avait en tout cas plus d'armes pour être plus fort sur le terrain. Maintenant, effectivement, c'est le caractère. T'as des Milanais qui sont complètement acculés, qu'on pas gagné un match, qui sont éliminés s'ils gagnent pas, donc ou quasiment quoi. Donc c'est très très fort quoi. Milan a fait une grande. Je suis pas sûr qu'ils aient une très bonne équipe Milan cette saison et qu'ils terminent sur le podium en Italie.
Mais c'est encore plus inquiétant dans ces cas-là. Tu trouves que Milan n'a pas une bonne équipe et pourtant elle arrive à battre le PSG.
Pour moi, ça change pas par rapport à Newcastle. Hein. J'ai toujours pensé que Newcastle avait pas une très bonne équipe et ils ont mis 4-1 au PSG. Hein. On n'était pas d'accord là-dessus, mais je le dis depuis le début. Donc pour moi, on retrouve un peu le même genre de choses, parce que ça joue là-dessus. Maintenant, comment expliquer le foot? C'est le foot. On en avait parlé, même si moi j'étais, je me rappelle, pour le fameux 60-40 et non pas forcément une défaite du Paris Saint-Germain, mais j'étais le plus modéré. Et comment expliquer qu'un Rafael Leao fasse un match comme ça, quasiment exceptionnel, alors qu'au match aller, même s'il avait fait 2-3 fulgurances, il avait été très discret.
Au match aller, il revenait de blessure aussi. Hein.
Voilà, non, mais c'est des grands joueurs, quoi, donc qui arrivent, et le retour il y a eu des choses dans ce match-là qui sont absolument pas normales, de se faire bouger comme ça. Et je suis, moi, quelque part, je suis presque pas content, mais ça me prouve que c'était pas ce que j'ai toujours dit aussi, que la défaite de Newcastle, la raclée de Newcastle, c'était pas forcément un choix tactique ou un choix d'homme de Luis Enrique. C'était surtout des joueurs qui étaient passés au travers et qui manquent sérieusement de caractère. Alors faut espérer qu'ils battent Newcastle et que ça se passe bien pour eux, parce que ça sera compliqué derrière sinon s'ils sont obligés d'aller gagner à Dortmund pour passer en huitième, ça risque d'être un peu compliqué à mon avis pour eux, mais dans la tête.
Tout à fait. Ibrahima, selon toi justement, est-ce que ce soir-là le PSG a manqué de caractère face à l'AC Milan?
Oui, énormément, le PSG a manqué de caractère face à l'AC Milan, mais ça fait déjà des années que le PSG manque de caractère tout court. On voit, on peut changer les joueurs, l'effectif, le résultat reste le même. Maintenant, pour revenir un peu plus sur ce match, ce que j'ai constaté, moi, et ce qui m'a pas mal interpellé, c'est quand même le manque de créativité d'un point de vue offensif. Hein. C'est vrai que on sent vite que c'est très vite limité, quoi. Faire la passe à Mbappé, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Sauf que quand Mbappé est pris par deux ou trois, voire trois joueurs même du côté adverse, c'est toujours compliqué. Ensuite, pour revenir sur quelque chose que j'avais prédit déjà, c'est par rapport au match extérieur. Pour l'instant, les deux défaites du Paris Saint-Germain sont à l'extérieur à chaque fois. Une à Saint-James Park, et cette fois-ci à San Siro. Et je l'avais prédit, j'avais déjà dit que ça allait pas être facile de s'imposer à l'extérieur. Maintenant, on attend de voir ce qu'ils vont faire du côté de Dortmund, mais je suis pas rassuré. La performance de ce week-end, malgré le triplé de Mbappé et la victoire, ne m'a pas non plus rassuré. Donc j'attends de voir, mais c'est très fébrile, franchement, côté parisien cette année.
Chakenza, il a manqué quoi justement au Paris Saint-Germain face à l'AC Milan?
Je pense qu'il a manqué tout, déjà la volonté, l'engagement et tout ça. Et je pense que le plan de jeu de Luis Enrique, c'est un peu répétitif. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas appris de la gifle qu'il a reçue à Saint-James Park. Parce que quand tu regardes l'animation de jeu, en fait, ce qui manque au PSG, c'est vraiment, je sais pas comment te dire, un 10 à l'ancienne, c'est-à-dire un créateur, quelqu'un
Neymar.
Vraiment, oui, qui peut casser les lignes et tout ça.
Neymar manque à cette équipe.
Bon, je pourrais pas dire forcément Neymar, mais les 10 maintenant, il y en a tellement. Ben, même s'il n'y a plus de 10 comme à l'époque, mais il y a des joueurs qui sont capables vraiment de, c'est-à-dire en 1 contre 1, de créer un espace et tout ça, et même, je sais pas, débloquer un match à eux tout seuls. Mais là, au PSG, il n'y en a pas. Puis quand tu regardes le milieu, je pense que le milieu de PSG, ils n'ont pas été à la hauteur face au milieu milanais. Déjà, au Milan, ils n'ont plus Kessier, ils n'ont plus Tonali. C'est une équipe qui est en recomposition, comme il a dit tout à l'heure. Mais ils ont été plus efficaces dans l'utilisation du ballon. Et puis, ils avaient aussi un Rafael Leao qui était en feu.
Un Loftus-Cheek aussi qui était en feu. Ouais, oui, le terrain. Parce que oui, là, tu n'as pas cité Tonali. Loftus-Cheek,
oui.
Loftus-Cheek a fait une masterclass.
Oui, il a fait un très beau match.
Même Moussa aussi.
Oui, même Moussa, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le milieu, c'est un milieu qui est en recomposition, c'est pas le milieu vraiment qui avait donné le scudetto au Milan il y a quelques années, Kessié, Tonali, tout ça, c'est plus le même milieu. Donc du coup, le PSG avait une carte à jouer, mais je pense que vraiment, il a manqué vraiment d'ingrédients vraiment à cette sauce. Et je pense que le PSG vraiment là, je pense que si les deux derniers matchs c'est pas gagné, ben ça serait mort.
Ouais, mais à un moment donné. Justement, ça m'amène à poser la question à Eladj. Eladj, est-ce que le PSG finalement n'a pas pris cette équipe milanaise un peu de haut?
Je pense
surtout,
pas.
Surtout par rapport au match aller.
Non, moi je pense pas qu'ils les ont pris de haut. Faut pas oublier, hein, au match aller, pendant 50-60 minutes, ils ont tenu tête le Milan au PSG. Je pense que vous oubliez parce qu'ils ont gagné 3-0, mais ils ont tenu tête. Leao a fait un mauvais match dans ses choix, mais il avait toujours la même percussion. Il a toujours dribblé. Si vous regardez les dribbles au premier match et les dribbles au deuxième match, ils sont quasiment identiques. C'est juste derrière, ça a eu plus de répercussions parce que derrière, il a fait les bons choix. Il a su la donner quand fallait la donner. Il a su tirer quand fallait tirer, tout simplement. Et au match aller, c'est ce qu'il n'a pas eu, c'est cette lucidité qu'il n'a pas eu au match aller. C'est ce qui a fait que le score a été tenu de 3-0. Mais après, maintenant, moi je pense que le PSG pouvait tenir son rang. Mais là, face au Milan, ils sont passés à travers. Ils sont passés à travers. Et Stéphane, je reviens sur ton petit passage. Quand, sur aussi ce que j'ai vu dernièrement, les notes données sur les joueurs du PSG contre le Milan, je ne suis pas d'accord
les
du
notes,
tout.
Les
du
notes
tout,
qui étaient dans le quotidien du sport.
C'est ça, c'est bien ça. Je ne suis pas d'accord du tout, du tout.
À quel niveau, sur quel joueur,
déjà,
sur l'ensemble
En fait, sur l'ensemble, je ne suis pas d'accord. Mais sur quoi même je pourrais m'arrêter vraiment, qui m'a vraiment outré, c'était Kylian Mbappé. Je sais que vous l'appréciez énormément, il n'y a pas de problème. Je l'apprécie aussi énormément, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les grands joueurs ne se cachent pas dans les grands matchs. Et là, c'était un grand match où on l'attendait au tournant. Et il n'a pas mérité un plus de deux. Parce qu'il faut savoir que Mbappé, quand il est dans des jours comme ça, ok, il y a toujours 2-3 joueurs qui jouent sur lui. Il a l'habitude. Aujourd'hui, il est censé trouver des alternatives.
En train de dire que Mbappé s'est caché durant ce match,
il n'a pas été bon du tout.
Non, mais entre ne pas être bon et se cacher, c'est pas pareil.
C'est entre les deux. Je sais pas.
En tout cas, on l'a pas vu.
Qu'est-ce qu'il a tenté?
Il a tiré quoi au but?
Mais s'il a une. Il a tiré quoi au but? Mais il a rien tiré au but. Les frappes, ils étaient même pas cadrés. Les frappes n'étaient pas cadrées. Est-ce que Mbappé, je lui reproche, dans ce genre de match où il ne peut pas débloquer la situation en marquant, il doit faire marquer les autres? Kolomwani, tu le mets en pointe, ok, tu le déglingues. Stéphane, tu le déglingues au niveau note, etc. Je suis bien d'accord avec toi, il n'y a pas de problème, mais tu déglingues Mbappé de l'autre côté. Parce que quand Mbappé, il a des occasions de la donner à Kolomwani, il doit lui donner. Et excuse-moi, mais si Mbappé serait dans un grand soir, il aurait mis au minimum un doublé. J'oublie pas la passe que Kolomwani lui a fait et il se retrouve face au gardien, il la loupe. Juste après, il essaie de faire une Ronaldo à Maignan qui ne passe pas parce qu'il est trop près de lui, or qu'il aurait dû essayer de la piquer ou de tirer, en tout cas de tenter.
Et
un autre où il met, ou un autre tir où il met hors cadre. Et ça, c'est deux actions de but où il y a 1-1. Et il en met 1 sur 2, ça fait 2-1, ça n'est plus le même match.
On peut parler de sa maladresse, mais pas du fait qu'il se cache.
Non, quand je te dis dans le fait qu'il se cache, c'est dans le sens où il y a des moments où il peut faire des appels ou des trucs, il ne les fait pas. Ou dès qu'on lui donne le ballon, il arrête le jeu, il ralentit le jeu. Ce que j'ai vu, c'est Vitinha à chaque fois et Kanginli quand il rentrait sur le côté. À chaque fois, ils essayaient de déborder le côté ou quoi, mais Mbappé bloquait le côté parce que les défenseurs le prenaient et ils bloquaient parce qu'ils ne les faisaient pas partir en profondeur. Franchement, on a tous joué au football, que ça soit amateur ou quoi, on a tous vu. Là maintenant, c'est un professionnel, il doit au moins savoir faire ça, prendre la profondeur, quand il n'a pas le ballon, libérer
Stéphane,
des espaces.
Stéphane, juste avant que tu répondes, je sais pas, prends le temps s'il te plaît de regarder les notes que le quotidien du sport a attribué. Le temps qu'on donne la parole à Papa Guélé, on va donner juste la parole à Papa Guélé. Papa Guélé, tu vas nous dire si effectivement pour toi l'AC Milan mérite justement de mener au terme de ce match face au Paris Saint-Germain.
Moi je dirais que les avis diffèrent. Moi, mon point de vue, la fausse note, c'est le coach. Parce que le football moderne aujourd'hui, quand c'est le seul coach que moi je vois qui ne change pas de stratégie de jeu quand son équipe prend l'eau.
Quand il est en difficulté.
Voilà. Il a insisté dans son faux système contre Newcastle, un 4-2-4. Et là encore, il a insisté dans un 4-3-3, alors que Milan a 6, était 5 au milieu. Quand ton équipe ne passe pas au milieu, tu ne fais pas des remplacements poste pour poste. Non. Moi, pour moi, ce n'est pas les joueurs.
Tu changes l'animation,
de jeu, c'est tout. C'est le seul, au jour d'aujourd'hui, qui ne change pas d'animation de jeu pendant le cours du match. Et là, ça
non,
ne passe
c'est
pas.
Faux. Excuse-moi, c'est
oui,
faux.
Stéphane, du réaction.
Ouais, excuse-moi, c'est faux. Déjà, pour revenir juste sur le match à Milan, effectivement, je partage un peu l'avis de Latt, parce qu'il est un peu dur. Effectivement, Colomoigny a eu 4, mais là, je l'ai par exemple.
Donc, rapidement, rapidement, c'était quoi les notes des joueurs, rapidement, s'il
la,
vous plaît.
La note de Mbappé, c'était 5 qu'il a eu, et Colomoigny a eu 4. Et le titre.
Bon, on a un souci de téléphone avec toi.
Et le titre, bah, c'était oui, vas-y, Donnarumma, ouais. Donnarumma à 7, 7, il a eu Donnarumma, lâché par Mbappé et Colomoigny. C'est-à-dire que c'est mis dans le titre vraiment tout ce que je viens de dire à l'instant. Et là, il a raison, je pense que c'est un peu ressenti plus dans le titre, c'est appuyé sur lui. La différence entre Colomoigny et Mbappé, selon moi, c'est que Mbappé, même s'il a normalement le talent qu'on pense qu'il a, qui lui permet d'eux, c'est qu'il a 2 ou 3 mecs sur le dos, donc on peut penser qu'on est un peu plus, mais ça, j'admets tout à fait les critiques. Maintenant, pour les notes. Maintenant, ils se sont bien. Les notes ont été quand même tous très mauvaises. C'est vrai que là, je m'envoyais un message en me disant, et je le comprends, un match comme ça, il n'y a pas un seul joueur du Paris Saint-Germain qui devrait avoir plus de 3 ou de. Ou de 4, je ne sais plus. Je comprends tout à fait cette manière de voir. Maintenant, pour revenir à ce que disait le précédent interlocuteur, donc j'ai pas le nom là.
Papa Guélé.
C'est faux. Effectivement, il ne le fait pas parce qu'il a ses idées. Il faut juste accepter ce que moi j'accepte, même si je ne suis pas d'accord du tout, qu'il n'a pas les mêmes que nous. Parce que si tu regardes, là, quand tu parles d'un match de foot, si tu regardes par exemple ce qui s'est passé à Reims samedi, à Reims, il a tout changé à la mi-temps, Luis Enrique. Il a changé 2 ou 3 joueurs et il a changé complètement, ou peut-être je ne sais plus combien de joueurs, mais il a changé sa façon de jouer. Il a complètement changé sa façon de jouer, notamment en sortant Ramos, en mettant Kang In-li en faux numéro 9 et en renforçant son milieu de terrain. Et en deuxième mi-temps, on n'a plus vu quasiment rien, sauf à la fin. Si à la fin, ils ont attaqué, ils ont assiégé le Paris Saint-Germain. Mais sinon,
visiblement, il le fait moins en Ligue des Champions.
Voilà, là, il le fait pas.
Est-ce que le niveau de la Ligue des Champions est au-dessus de lui?
Je pense pas. Maintenant, simplement, on peut ne pas être d'accord avec
excuse-moi,
le coach,
Stéphane.
On peut ne pas être d'accord. Maintenant, je pense que on peut pas. C'est un peu extrême de dire ça. Maintenant, je reviens une dernière fois sur le match de Milan, comme sur le match de Newcastle. Et rappelez-vous que je vous avais fait beaucoup rire lors d'une première émission quand j'avais dit que Luis Enrique il avait en tête de mettre Mukiele latéral droit quand il y aura le retour ce qu'il aura, mais en tout cas qu'il avait envie de mettre un latéral droit plus défensif que ne l'est Hakimi. Et quand on regarde quand même les deux matchs contre le Milan AC, que ça soit le match aller comme l'a rappelé Elad, où Leao a fait quand même des dribbles, des fulgurances, a mis dans le vent X fois Hakimi, ça a été exactement la même chose au match retour. Donc ça, pour là, je pense que c'est le genre de choses qui plaident un petit peu dans ce que je disais en début de saison, hein, d'émission, où on disait que Enrique aurait en tête, quand il aurait la possibilité, quand Mukiele allait revenir, c'était ça que je disais. Mm-hmm.
Elle a une réaction par rapport à ce qu'a dit Papa Guélé déjà, le fait que notre ami Enrique n'a pas forcément des solutions quand son équipe est dominée.
Il ne choisit pas les bonnes solutions. Moi, je pense qu'il a des solutions, mais il ne choisit pas les bonnes solutions. Maintenant, la composition, moi, je pense que ça n'est pas un problème parce que à l'aller, il avait la même composition et ça a fonctionné parce qu'on a gagné. Moi, je pense juste que les joueurs n'étaient pas dans le match et il faut changer. Quand Ugarte fait un match dégueulasse et tu le vois dès la première mi-temps, tu sais qu'il n'est pas dedans, tu le sors. Et excuse-moi, je ne comprends pas parce que je ne me souviens pas du jour où Danilo Pereira a fait un flop en Ligue des Champions. En tout cas, lui seul, je ne m'en souviens pas. Pourquoi tu ne mets pas Danilo Pereira à la place d'Ugarte à ce moment-là? Pourquoi tu ne le fais pas rentrer?
Oui, rapidement, Ibrahima, on va clore sur le chapitre.
Danilo Pereira est blessé, c'est pour ça qu'il ne joue pas.
Il n'était pas blessé, non.
Il était déjà blessé cette semaine, non?
Non, il n'était pas blessé.
Tu parles de quel match, là?
Le match à Saint-Milan?
Je n'ai pas de souvenir. Je sais qu'actuellement il est blessé, effectivement. Est-ce que face au Milan, à l'AC Milan, il était déjà blessé? Je ne saurais te le dire. Mais dans tous les cas, grosso modo, il y a encore des axes d'amélioration au niveau donc du jeu de ce Paris Saint-Germain là. On va à présent, les amis, parler du RC Lens. Est-ce que le RC Lens justement a fait preuve de naïveté dans son approche face au PSV Eindhoven? Le RC Lens a été battu 1-0. Il était blessé blessé.
Oui, il
était blessé. Donc, battu 1-0 justement à Eindhoven. Alors, mon cher Philippe Carnu, tu nous rejoins.
Oui.
C'est l'occasion rêvée justement de, d'avoir ton avis hein, ouais. sur le, les Lensois.
Bah, Lens, ils sont peut-être. Ils arrivent peut-être au point de rupture maintenant. Peut-être qu'ils sont au maxi là. Hein. Donc, ils ont été battus à Eindhoven. Bon, j'espère qu'ils feront l'exploit à Arsenal, ça sera un petit peu plus compliqué là. Mais ouais. Ils ont été logiquement battus par, par le PSV sur le match retour. Hein. Donc ils sont peut-être au point de rupture là, enfin au maxi. Quoi.
Logiquement battus, Chakenza, tu penses pas ouais. qu'un match nul quand même aurait pu être gagné
ouais,
par le
sur le match retour. Vraiment, oui, ça aurait
par
été.
RC Lens, pardon.
Ouais, ça aurait été mieux. Mais
il y a un tir quand même sur la base du poteau
ouais.
en
oui,
fin de match.
Moi, je pense que vraiment, là, il ne peut pas dire vraiment que Lens est son point de rupture. Non, non vraiment, moi je trouve.
Avis.
Ben, oui, c'est oui. son avis, mais moi je partage pas cet avis déjà, parce que je pense que le Racing Club de Lens, depuis quelques temps, ben, là, j'ai comme l'impression qu'il monte en puissance. L'équipe monte en puissance, oui, mais 7 ont mis le match du PSV Eindhoven. Là, l'équipe vraiment, si
c'est en championnat, ça remonte, ça c'est clair.
Ouais, mais bien sûr, si c'est le dernier match et tout ça, on a vu même le match avec Arsenal et tout. Par moment, on peut pas tout en gagner au football. Par ce genre de match, c'est bien vraiment déjà pour venir remettre l'équipe en cause et tout, pour dire que vraiment, il y a des points sur lesquels on n'a pas été bon, mais déjà remettre tout le système de Franck Hens en question pour dire qu'ils
sont
au point de rupture.
Non, c'est pas le système
non,
qui
non,
remet
non,
en
c'est
question.
Pas, c'est que,
Papa Guélé, est-ce que tu penses que malgré tout, le RC Lens a été naïf et aurait pu quand même arracher un nul?
Moi, je dirais qu'on confond tout dans ce débat. Parce que quand nous parlons de Champions League, nous ne devons pas parler du championnat de France. Comme il a dit tout à l'heure, Lens a atteint ses limites en Champions League.
Mais c'est du championnat local qu'on part pour aller en
oui,
Ligue
mais
des
là,
champions.
Comme c'est pas la même compétition. Dans la Champions League, ils ont atteint leurs limites.
Selon toi?
Oui, ils peuvent remonter.
Donc tu es du même avis
oui,
que Philippe?
Ils ont atteint leurs limites en Champions League.
Je pense
pour
pas.
Toi, ok. Eladj, tu penses aussi que le RC Lens a atteint
ah
ses
non,
limites
moi,
en Ligue des Champions ou ils sont capables de réaliser l'exploit au niveau face à Arsenal?
Je ne pense pas qu'ils sont capables de réaliser l'exploit à Arsenal maintenant, si c'est ça la question. Et l'autre question, bah moi je l'avais prédit. C'est simple, hein. La semaine dernière, on m'a demandé mon avis. J'ai dit que le PSV Eindhoven allait battre Lens. Et maintenant, les personnes qui peuvent dire oui, mais ils pouvaient égaliser parce qu'il y a eu un poteau, parce qu'il y a eu ci ou ça, le PSV Eindhoven aurait pu leur mettre 3-0. 3, vraiment 3. Là, je repense à Lozano quand il part en 2 contre 1 avec Bagayoko qui lui donne, qui lui sert pas, qui le sert pas. C'est vraiment incroyable. Voilà, qui ne sert pas Bagayoko sur la dernière, sur, au moment où il peut faire le break à la 60e minute. Je comprends pas, voilà. Donc maintenant, non, on a vu que le PSV Eindhoven était vraiment au-dessus. Et moi, je l'avais dit, hein, à domicile, PSV Eindhoven, ça va le battre. Maintenant, ça l'a sous-estimé comme ça le fait régulièrement pour les autres équipes des autres championnats. C'est ce que ça fait souvent autour de la table. Ça dit, oui, mais non, quand même, ça n'est que les Pays-Bas, ils vont aller là-bas, quand même, ils vont réussir à gagner. Bah oui, là, franchement, si on n'arrive pas à les battre, bah, voilà, bah là, la preuve en était. Voilà, oui, ce sont les champions en titre. Aujourd'hui, ils sont premiers encore dans le championnat Eredivisie. Et ils portent leur statut. Ils jouaient à domicile. Ils ont enchaîné je sais pas combien de victoires à domicile. Ils ont joué contre Lens. Et la victoire était méritée. C'est ce que j'avais bien dit.
Ibrahima, c'est Lens qui a été faible ou c'est le PSV qui plane tout simplement?
Oh, j'ai personnellement pas trouvé le PSV si exceptionnel que ça. Ils ont fait un bon match. Il y a de bonnes individualités de leur côté, mais je les ai pas trouvés non plus flamboyants. Après, c'est vrai que pour revenir à la question de départ, c'est vrai que je pense que oui, Lens a quand même atteint ses limites. Ça va être très très compliqué, voire même quasi impossible. Mais bon, on sait jamais avec le football. D'aller gagner à l'Emirates, mais sur ce match-là, non, j'ai pas trouvé le PSV franchement, franchement exceptionnel. Il y a pas mal de bonnes personnalités. Enfin, il y a Bakayoko qui est vraiment bon sur son côté. Luc De Jong aussi qui pesait pas mal sur la défense lensoise.
Ah, mais il a pourri le match aussi. Hein.
Oui, pas mal.
C'est en cela, justement, qui fait cas à la naïveté lensoise. Hein.
Oui, parce c'est que, ça, justement, c'est surtout ces aspects-là qu'on.
Lens a su approcher l'ampleur de l'événement.
Stéphane. Mais sinon, non,
je
oui. pas
trouvé. Moi, je pense que. Je pense que Lens a montré simplement ses limites sur la saison. Hein. C'est-à-dire que Lens là est bien revenu sixième. Je pense que le maximum c'est cinquième. En tout cas, en l'état actuel, je ne sais pas si on peut aborder par exemple le cas Elias Wahi. Je veux bien qu'il soit jeune, qu'il ait changé de truc et tout, mais c'est quand même une catastrophe complète. Quoi. C'est une catastrophe. Franchement, je trouve que c'est une catastrophe. Et avec ça, ils n'arriveront jamais à avancer. Et je pense effectivement qu'ils ont atteint clairement leurs limites en Ligue des Champions. Donc la victoire du PSV, elle est logique face à une équipe solide comme ça. Et ils ont peut-être aussi remonté jusqu'à la 5e, 4e place, mais même 5e, quoi. Ils sont très loin d'équipes comme d'autres équipes de Ligue 1, et bien sûr d'équipes comme le PSV et Arsenal, qui normalement devraient tous les deux passer, mais ça va être bouillant jusqu'au fond, parce que si jusqu'au bout, parce que vous regardez le calendrier et les classements, là, vous vous rendez compte que tout va jouer lors de la dernière journée, quels que soient quasiment les résultats des matchs de la prochaine journée, quoi.
Mm-hmm. Papa Guélé, de l'espoir pour Lens malgré tout ?
Non.
Dans le micro.
Non, moi je...
Non, tu vois pas Lens passer, hein, non, du tout, sortir des poules, même pas. Bah écoutez, pourquoi pas, wait and see, hein, on verra bien d'ici la journée prochaine, d'ores et déjà face à Arsenal, hein, si j'ai bonne mémoire.
Là, oui,
c'est
Arsenal.
C'est face à Arsenal, ouais. Justement, à l'Emirate en plus. Alors les amis, tiens, on va évoquer l'Europa League avec l'Olympique de Marseille, Toulouse FC, le Stade Rennais. L'Olympique de Marseille a défait l'AEK Athènes, donc 2-0. Toulouse FC a battu Liverpool 3-2, oui. Et le Stade Rennais, justement, est venu à bout du Panathinaikos 3-1. Rapidement les amis, hein, on va pas faire long là-dessus, quelles sont vos impressions par rapport justement au bon parcours en Europa League des clubs français? Est-ce que c'est pas véritablement le vrai niveau de nos clubs, tout simplement, Chakenza, l'Europa League?
Non, pourquoi pas, mais Toulouse en Europa League c'est bien quand même. Après aussi ça dépend de comment Liverpool, moi je pense que Liverpool ils ont un peu négligé le match d'entrée et tout ça. C'est-à-dire après, non, vraiment, non, quand non, ils sont
non,
revenus...
Moi, j'apprécie pas trop ces genres d'analyses-là. Excusez-moi du peu, hein, les amis.
Non, bien sûr.
C'est vrai qu'on on passe notre temps à critiquer les clubs français. Mais dès lors qu'on gagne, on va me dire non, ils ont joué
non,
à 10.
Bien sûr.
Le gardien, c'est le gardien
non,
qui a
c'est
fait
pas
une
le
erreur.
Gardien, mais déjà, je pense que...
Non, mais arrêtez. Une victoire, c'est une victoire.
Match,
les matchs, il faut les jouer, il faut les gagner, les amis.
Non,
Malik,
il donne son ressenti. Il donne son ressenti, comment il a vu la chose.
Pour une fois, il faut reconnaître l'exploit.
Ah non, bien sûr, je pense qu'autour de la table, tout le monde reconnaît l'exploit.
Arrêtez, les amis.
Non, c'est vraiment.
On va me dire c'est l'équipe Z.
Non, on reconnaît l'espoir.
Liverpool, c'est Liverpool.
Mais à un moment donné, du match, on a senti que Liverpool pouvait gagner ce match.
Non, non,
on a senti qu'ils sont revenus dans le match.
Non, les amis, de façon factuelle, Toulouse a battu Liverpool.
Oui, ils ont battu Liverpool.
On est d'accord là-dessus.
Mais l'approche du match, si vraiment on doit décortiquer l'approche du match de Liverpool, moi je pense qu'ils n'ont pas une bonne approche du match. Je me suis dit déjà qu'ils ont peut-être négligé l'adversaire. Parce que oui, au football, ça arrive. Par moment, on peut prendre un adversaire de haut, on se dit ouais, c'est Toulouse.
Mais pourquoi à chaque
Liverpool
fois quand on gagne on néglige l'adversaire dès que c'est nous au club français? Pourquoi
non.
Pourquoi
non.
On a cette
non.
idée
non,
pourquoi
c'est
on peut pas se
idée.
Dire quand même que sur un match, si tu me dis 10 fois Liverpool rencontre Toulouse, 10 fois Liverpool l'emporte 9 fois,
c'est l'équipe qui se transcende, hein.
La
ouais.
seule fois où Toulouse
comme
pouvait
Lens,
battre
comme, ouais.
Liverpool c'était ce jour là
ouais. Enfin, bah ouais.
Quel est ton oui Stéphane, je reviens à toi.
Pardon,
vas-y, on t'écoute.
Non, ce que je disais, c'est que le message envoyé par les entraîneurs, ils sont quand même forts, quoi. Et quand tu viens jouer à Toulouse, quoi, un match de Ligue Europa, et que tu laisses, je crois, peut-être trois titulaires indiscutables en Angleterre, chez eux, même pas sur la feuille de match, que tu en remets trois autres sur le banc et que tu fais jouer les autres, même si je suis tout à fait d'accord avec toi, quand tu t'appelles Liverpool, que tu as le budget que tu as et le championnat dans lequel tu joues, tes remplaçants sont censés être plus forts que les joueurs de Toulouse. Mais le message, il n'est pas bon. Même les mecs qui ont leur chance, qui sont sur le terrain, forcément, ils se disent, ils ont pas le message envoyé par Klopp, qui est un entraîneur que j'adore, il n'est pas bon. Et là, c'est clair que Liverpool a pris, a sous-estimé, n'a pas pris bien. Maintenant, je suis d'accord avec toi, ça ne veut pas tout dire. Toulouse a su mettre les ingrédients. Toulouse a su mettre les ingrédients qu'il fallait pour gagner ce match, avec un petit peu de chance, ce qui est normal parce qu'ils ont provoqué la chance. Maintenant, il est clair qu'il n'y a pas eu, je pense que c'est évident, qu'il n'y a pas eu. Je disais la même chose d'Arsenal quand ils sont venus à Lens. Et Arsenal avait mis la grosse équipe, donc quoi, avait pas fait tourner rien du tout. Maintenant, Liverpool, quand tu regardes, je crois que t'as quatre titulaires qui jouaient, ou quatre ou cinq maximum pour jouer les cinq derniers matchs de première ligue, quoi. C'est des très bons joueurs, mais le message envoyé, il est pas bon. Il est pas, à mon avis. En tout cas, c'est mon avis à moi.
Merci. Rapidement, Elad, là-dessus.
Ouais, Stéphane, je partage l'avis de Stéphane sur ce qu'il a dit.
Bah, décidément, vous êtes amis aujourd'hui, hein, Stéphane et toi.
faut bien croire. Mais...
Stéphane, je crois qu'il faut, rester au téléphone souvent. Il ne vient plus en studio.
Non, mais plus sérieusement, non. je partage son avis parce que je pense que ce qu'il a dit, c'est ce qui a été. Et après, maintenant, faut pas oublier, hein, parce que là, Malik, ce que tu as reproché à Chekenza, c'est de dire oui, mais truc, etc. Ils ont gagné comme ci, ils ont gagné comme ça. Mais Toulouse eux-mêmes se sont positionnés dans cette position. Ils sont arrivés comme ça. On a vu la banderole des supporters. Franchement, aujourd'hui, le PSG joue contre le 19e de Première Ligue. Je sais même pas qui c'est, le 18e ou le 10e. Sheffield United même. Je suis sûr à 1 million de pourcents que Sheffield ne font pas une affiche où ils mettent sur un malentendu, ça peut le faire.
Non.
Vous avez vu, les supporters, ils sont arrivés comme ça déjà. Sur un malentendu, ça peut le faire. Comment nous, Malik, maintenant.
Déjà, ils étaient pas optimistes.
Exactement. Donc déjà, il a bien dit sur un malentendu.
Les supporters, c'est pas le staff technique, ce sont pas les joueurs.
Il n'y a pas de problème, mais je pense que ça.
L'orgueil du joueur.
Les supporters reflètent beaucoup, beaucoup un club.
Les supporters sont censés apporter le plus. C'est-à-dire ce qui va manquer, c'est-à-dire.
Et c'est les premiers qui veulent les voir gagner.
Je pense, franchement, tranquillement, et je suis très, très, très calme quand je vous le dis, les amis. Je pense que si les joueurs n'avaient pas cru en leur victoire, ils auraient pas gagné. Quelle soit l'équipe que Liverpool
bien sûr.
A mis sur le terrain.
Ah non,
rapidement là-dessus, Ibrahima.
Non, personnellement, je pense que c'est quand même ça. Une victoire reste une victoire. Après, je suis quand même d'accord avec Stéphane. Hein. Quand on voit la composition de Liverpool, sincèrement, c'est. Je vais pas dire qu'ils ont pris ça à la légère, mais à un moment donné.
Ils ont pris ça à la légère.
Si, oui, on peut le dire. Ils ont pris ça à la légère.
Matip et Gomez. Hey, on voit Matip et Gomez. Franchement, en Ligue 1, même, je sais pas où est-ce qu'ils ont leur place titulaire, mais tu vois, ils font des matchs dégueulasses. Franchement,
Gomez, mais...
faut voir. Oh là là, faut voir. Catastrophe.
Non, moi, je pense que c'est la beauté du sport, c'est la beauté du foot. On peut se transcender. On peut être dans un jour où tout nous réussit, où on est à 120% au lieu de l'être à 100. Donc ça arrive, c'est la beauté du sport et effectivement, bon bah, je pense pas quand même que Liverpool, même s'ils avaient une équipe qui était un petit peu réduite, Liverpool, ça reste Liverpool au niveau de l'état d'esprit. Hein. Mmh. Voilà.
Et dans le même temps, nos amis marseillais sont allés battre l'AEK Athènes, hein, les amis, 2-0. Papa Guélé, réaction là-dessus?
Marseille qui bat l'AEK Athènes 2-0, pour moi c'est une normalité.
C'est une normalité, hein, n'est-ce pas?
Bah oui, Marseille, oui, ils ont fait respecter les reins. Après, c'est Marseille. Même quand ça ne va pas, c'est Marseille. Donc à un moment donné, il y aura ce sursaut d'orgueil vraiment avec Gattuso là. Vraiment qui, voilà,
c'est à l'extérieur, hein, cela dit.
Bien sûr, mais avec Gattuso déjà.
La semaine précédente, on nous disait que dans le stade, au niveau d'Athènes, c'était chaud bouillant et que les Marseillais, ils allaient faire pipi sur eux. Il y a certains qui l'ont dit ici dans ce studio. Hein.
Je ne me souviens pas avoir entendu quelqu'un dire
qu'ils allaient faire pipi.
Ibrahima, réaction rapide sur la victoire marseillaise à Athènes.
Oh, ça, c'est l'important, ça, là, pour le coup, c'était les 3 points, une bonne victoire. Après, Athènes, c'est quand même assez faible. Par contre, moi, je voulais parler de Rennes. Je sais pas si je peux.
Oui, on enchaîne parce qu'on est dans le triptyque des clubs français.
Oui, j'ai bien aimé la victoire de Rennes, surtout à 10
contre 11. Face au Panathinaikos,
c'est ça, je vais le répéter chaque semaine, hein, mais Marseille a quand même perdu contre le Panathinaikos, qui est extrêmement faible.
C'est très grave. Ouais, c'est très, très grave.
Non, on va dire, hein, c'est pendant les préliminaires, justement.
Oui, j'en reviens toujours
de la
pas.
Ligue des Champions. Réaction rapide aussi.
Non, Marseille, que Marseille-Rennes gagne, ça me paraît quand même logique. C'est quand même. Voilà, donc sur un premier tour de Ligue des Champions.
Stéphane Desenclos, Marseille, le Stade Rennais, victoire.
Ouais, bah tout à fait, c'est logique. Hein. Je crois qu'il n'y a quand même pas, même si le Panathinaikos est en tête de son championnat, et quand même pas, on va quand même pas comparer le championnat de Grèce avec le championnat de France. Donc c'était quand même faible. Quoi, le match en tout cas de Marseille, c'était très faible en face. Hein. On n'a pas vu. Particulièrement un Olympique de Marseille flamboyant. On en parlera tout à l'heure. Je crois qu'il y a un sujet sur l'OM, qui est quand même une équipe qui est très, très, très inquiétante. Quoi. Et puis voilà. Bah,
c'est vrai. L'OM inquiète ces jours-ci.
Contre le club grec qui est en tête du championnat, ça passe pas. Mais contre le club grec qui est troisième du championnat, ça passe. Voilà. Donc, y a que ça à dire. Parce que l'AEK Athènes a quand même fait, non seulement, moi je disais avant qu'ils avaient des bons joueurs, hein, que beaucoup d'internationaux et tout ça, maintenant ils ont quand même fait un match tout pourri, quoi. Donc, c'est heureusement que Marseille a gagné.
Et là, Diom.
Oui, voilà, hein, je pense que tout a été dit. Hein. Marseille n'ont pas été flamboyants. Après, l'AEK Athènes ont fait un mauvais match. Je pense qu'à l'aller même, ils ont fait un meilleur match qu'au retour. Et voilà, c'est mérité pour Marseille, je pense que voilà.
On va pas oublier quand même nos amis lillois. Hein, oui. Un but partout face au Slovan Bratislava.
C'est bien ce que je disais. Hein. Ouais. Comme la semaine dernière, c'était on va les battre, c'est facile, c'est je ne sais où. Non, mais c'était
là,
ça.
Là,
ils sont en tête quand même.
D'accord, on parle de la conférence
ligue. Franchement, ils sont en tête. Mais même dire ça là, franchement, c'est petit.
Mais les amis,
ils sont en tête. Vous avez vu contre qui
c'est à l'extérieur,
arrêter d'abuser. Il faut arrêter d'abuser quand même 5 minutes pour de vrai. Arrêter. Donc, je connais même pas le nom de cette équipe. Même aujourd'hui, je la connais même pas encore. Non, mais faut arrêter 2 secondes.
Tu vas pas gueuler. Tu vas pas gueuler. Toi, au moins, tu boycottes pas les clubs français, j'imagine.
Non, je boycotte pas, mais je suis réaliste.
Oui, c'est-à-dire
comme il a dit, si Lille n'arrive pas à les battre.
C'est qu'il y a un réel problème.
Il y a un sérieux problème.
Une problématique.
Aussi.
Mais là, en l'occurrence, ils n'ont pas battu. Ils ont fait match nul, hein, les amis.
Oui, mais ils doivent. Ils doivent
quand même.
Mon cher, on parle de Lille.
Mon cher Philippe Sud, m'abuse. Lille est première de sa poule.
Oui,
hein.
Premier. Voilà, donc, ils sont premiers, les Lillois.
Il n'y a pas de souci, là, particulier, les amis. Lille reste premier de sa poule.
Ils ont fait un nul à l'extérieur.
Et puis, respecter aussi l'adversaire, le Slovan Bratislava.
Franchement, moi, je vais vous dire la poule parce que Slovan Bratislava, ils sont deuxième. Non, mais je vous dis la poule. Ils ont 8 points en 4 journées. Excusez-moi, mais en 4 journées, ils doivent avoir 12 points. Ils doivent pas en avoir moins. Ils doivent avoir 12 points. Ils doivent déjà être qualifiés et se reconcentrer sur la Ligue 1. Non, mais il faut parler sérieusement. Jules Bajna, le quatrième. Klasvik, le troisième. Et Slovan Bratislava, le deuxième. Non, mais il faut arrêter 2 secondes. Maintenant, dire ils sont premiers. Encore heureux qu'ils sont premiers. Ils sont premiers avec 1 point. Attention quand même. Ils sont même pas encore qualifiés. Non, mais il faut arrêter.
Je rappelle que ces équipes-là, contre qui ils jouent, sont des équipes qui sont classées quatrième, cinquième dans leurs championnats respectifs. C'est-à-dire le championnat slovaque, le championnat des îles Féroé. Sans manquer de respect.
Non, il faut arrêter. Quand on parle des 5 grands championnats, on dit les Français font partie des 5 grands championnats. Faut arrêter 2 secondes.
C'est faux. Féroé,
on connaît même pas un joueur là-bas.
Faire match nul contre le 5e ou 4e du championnat slovaque.
En fait, il y a un truc.
Oui, chacun de
moi, j'ai l'impression que déjà, ça c'est mon avis. Après, vraiment, je peux pas généraliser. Concernant la Conference League, les clubs français, j'ai l'impression vraiment qu'ils se donnent pas à fond.
Non, mais vous dites ça, mais en fait, on n'a pas encore remporté de Conference League. Hein,
c'est grave. Mais à un moment donné,
je veux bien que vous la ramenez comme ça, 5e championnat au monde.
Même une compétition comme l'Europa. Jusqu'à présent, il y a même pas un club français majeur qui a remporté l'Europa League.
Une année,
depuis qu'elle est passée à l'Europa League, hormis Marseille qui a fait 2 finales. Donc, du coup, ça montre qu'il y a une négligence.
On fait 2 finales, mais t'as vu les finales
en Ligue Europa,
mais quand même, 2 finales déjà.
Face à l'Atlético, il y avait une différence de niveau.
L'histoire retient qu'elle est vainqueur.
Mais quand même, ça fait partie du palmarès.
Pas tous ensemble, les amis. Stéphane Desenclos, viens au secours de Lille, s'il te plaît. Viens au secours de Lille.
Non, je vais pas venir au secours de Lille. Si les clubs français gagnent pas la Ligue Europa, ni la pour l'instant en tout cas la Ligue Europa Conférence, c'est tout simplement parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'un club français fait une belle saison, arrive à se qualifier un peu à l'arrache pour une compétition comme ça, bah derrière l'équipe qui représente le club l'année suivante, c'est plus la même du tout. Et je suis désolé, mais on en parlait en début de saison, un peu en se moquant de Doku, par exemple, le Rennais, il est parti parce qu'il a bien marché, il est parti. Lens, bon, ça c'est en Ligue des Champions. Lens, ils ont fait une belle saison, leurs 2 meilleurs joueurs, ils sont partis. Donc, je veux dire, comme ça, c'est vrai qu'on arrivera, on se qualifie, on a l'impression qu'on se qualifie pour les compétitions européennes, mais derrière, il n'y a pas une politique du club qui est de garder ses joueurs. Les joueurs, ils ont brillé.
Mais
et
c'est le marché qui veut ça, mais c'est aussi
les moyens,
parce qu'aujourd'hui, en Ligue 1, à part le PSG, franchement, tous les autres clubs sont quand même plus ou moins à la ramasse, hein, financièrement parlant. En fait, le PSG n'a pas de concurrent direct, mon cher Stéphane, aujourd'hui. Ouais, je pense que ça fragilise aujourd'hui le championnat fortement. Et c'est pas du tout à l'avantage de ce championnat. Voilà pourquoi est-ce que des clubs comme Lille, Lens, Toulouse n'arrivent pas à garder ne serait-ce qu'une seule pépite.
Exactement. Et puis le problème, c'est que où c'est assez bon. Après, il faudra se pencher sur un énorme dossier sur le championnat, effectivement.
Parce que imagine un Doku, par exemple. Imagine, il serait resté, il viendrait à l'Olympique de Marseille, hein, un Olympique de Marseille qui tourne bien ou un Olympique Lyonnais qui tourne bien, il resterait malgré tout dans le championnat français. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand ils partent du championnat de France, ils partent à l'étranger. Donc, c'est pas.
Ouais,
de...
mais
parce que s'ils veulent rêver grand, s'ils veulent rêver grand, ils sont obligés d'intégrer le PSG. Et là, il n'y avait pas de place au PSG. Ils peuvent pas aller à Marseille. Tu vois, Marseille, ils jouent quoi? Ils jouent le maintien en Ligue 1. Enfin, sérieusement. Et là, lui, il joue là, dans le meilleur championnat du monde. Et il joue le titre dans le meilleur championnat du monde. Mais il n'y a pas photo. Mais
voici pourquoi il faut des concurrents au PSG. Justement.
Je suis désolé, hein, mais Doku à Rennes et Doku à City, c'est pas le même joueur.
Ouais, c'est pas le même joueur.
Pardon, j'ai pas compris.
Jérémy Doku à Rennes qui faisait des bouts de match ça, parfois en sortant de banc, et Jérémy Doku actuellement à Manchester City, c'est pas le même joueur.
Hein. Non, c'est pas le même joueur.
Faut voir. Ouais, faut...
Oui, Papa Guélé.
Bah, tout à l'heure, c'est Stéphane. Hein.
Oui, Stéphane.
C'est comme tout à l'heure quand j'ai parlé, il s'est opposé à tout ce que je disais, mais il revient à moi parce que j'ai dit tout à l'heure que le championnat et la Ligue des Champions, c'était deux compétitions différentes. Ouais. Le championnat, le niveau du championnat. Le Paris Saint-Germain fait tout ce qu'il veut.
Oui, mais Papa Guélé, on ne peut pas les dissocier pour autant.
Non.
Tu brilles en championnat et ensuite tu vas en Ligue des Champions et après tu vas éventuellement en sélection nationale.
L'entraîneur a changé les joueurs, il a changé les systèmes. Il se permet tout cela dans le championnat de France, mais il ne peut pas le faire en Ligue des Champions. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de concurrence dans la Ligue 1. Donc il revient à moi. Il n'a pas de concurrent. Donc il fait ce qu'il veut. Mm-hmm. Mais quand c'est en Ligue des Champions, lui aussi, il est limité. Voilà.
Tu es d'accord avec ça, Stéphane?
Il arrive non, à changer le système dans la Ligue 1, mais en Ligue des Champions,
j'avoue que j'ai pas tout compris.
Mais il dit,
Papa
Guélé dit tout simplement que Luis Enrique fait un peu son malin quand il est en championnat de France, en Ligue 1. Et dès lors qu'on arrive au niveau de la Ligue des Champions, ses limites apparaissent au grand jour, un peu comme ce qu'on a vu lors de la Coupe du Monde avec la sélection espagnole. Il a moins de réactions dès lors que la compétition est grande.
C'est peut-être vrai sur ça, c'est peut-être une chose qui est vraie.
Mais ça commence à devenir récurrent aussi hein, par rapport au parcours du monsieur.
Non, c'est pas pour le débat, mais moi, le seul truc que je m'opposais à ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est quand il dit que jamais dans ses matchs, il change. Je dis que c'est pas vrai. Maintenant, effectivement, je pense que ils n'étaient pas en difficulté particulièrement à la mi-temps, mais ce qu'il a fait, par exemple, à Reims, il a prouvé qu'il pouvait changer. On a d'autres coachs avant, notamment les premiers six mois, voire la première saison où il était là, Thomas Tuchel au PSG, c'est ce qu'il faisait. Il changeait tout à la mi-temps, il changeait très souvent de système. Je pense que c'est tout à fait possible. L'année dernière, c'était peut-être pas possible parce que tu n'avais pas les gens sur le banc. Mais on a vu aujourd'hui que tu as des gens sur le banc, au Paris Saint-Germain en tout cas, qui sont bien, qui ont été un peu lancés. Ça merci quand même aussi Luis Enrique, je pense, hein, par rapport à d'autres qui s'en servaient comme de paillasson, je pense, pour rentrer dans le vestiaire. Et au moins, il peut les utiliser. Donc, je pense que tu peux pas dire, si tu veux, que si tu estimais en tout cas qu'à la mi-temps, par exemple, ou en cours de match, il aurait dû faire des changements, ce qui est peut-être vrai, hein, je suis d'accord tout à fait. Je pense qu'il avait sur le banc de quoi assez de joueurs pour essayer de faire des changements. Des Fabian Ruiz, des Ramos, de Barcola, il avait des joueurs Mukele, il avait des joueurs pour faire des changements s'il voulait changer son équipe.
Oui, et à titre d'information, il y a le défenseur parisien qui a repris l'entraînement, dont j'oublie le nom.
Kimpembe
a repris justement l'entraînement collectif. Donc peut-être que d'ici quelques mois, voire quelques semaines, on pourra le revoir. Et puis j'espère qu'il reviendra en forme. À ce moment-là, on se posera la question hein, quel sera l'axe défensif de cette équipe parisienne. Les amis, on va marquer une pause. On va écouter juste notre sommaire, un peu de pub, et puis juste derrière. On va évoquer l'équipe de France, notamment à travers le cas Zaïre Emery. Zaïre Emery, c'est vrai, on reconnaît tous aujourd'hui sa valeur, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est appelé par Didier Deschamps en sélection nationale. Mais qu'est-ce qu'il va apporter de plus que l'équipe de France n'a pas? C'est ça la question. Réfléchissez, on revient juste après, bougez pas.
David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa classe se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables.
Quand je l'ai quitté, il a commencé à m'envoyer des insultes et des menaces sur mon Facebook. Pour se venger encore plus, il a publié des photos de moi trafiquées. Maintenant, plus personne ne me regarde de la même manière. Je me sens humiliée, salie, et prise au piège. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je pensais que ça passerait, mais je me sens toujours seule. Salie. Je me supporte même plus. Faut que j'en finisse.
Si Kenza en parlait à quelqu'un, elle pourrait éviter le pire. Stop au silence avec Sourire de Reda, association marocaine pour aider les jeunes en souffrance et prévenir le suicide. Exprime-toi sur la fanpage Facebook Sourire de Reda.
Au sommaire d'Au-bout du foot de ce 13 novembre 2023, analyse des performances des clubs français en Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain et Lens en difficulté en Ligue des Champions. Le PSG a-t-il montré un manque de caractère face à l'AC Milan ? Le RC Lens a-t-il fait preuve de naïveté dans son approche face au PSV Eindhoven ? Nous y répondons. Et également en Europa League, avec les bons résultats de cette quatrième journée des clubs français, est-on en droit de dire que le niveau de notre Ligue 1 équivaut à l'Europa League? Là encore, Au-bout du foot répond. Équipe de France, comment Zaïre Emery apportera-t-il une réelle plus-value à la sélection nationale? Au-bout du foot se prononce. Première Ligue, où est passé le Manchester United de Sir Alex Ferguson? Au-bout du foot répond. Quel choix pour quel résultat? L'Olympique de Marseille est à 11 points du podium en Ligue 1. Est-ce une source d'inquiétude légitime? Sans la casette titulaire, l'Olympique lyonnais remporte sa première victoire en Ligue 1. Peut-on espérer une continuité dans cette performance? Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos, Kolo Muani, ni titulaire ni remplaçant. Est-ce une approche favorable pour densifier l'attaque des Parisiens? Au-bout du foot répond. Au-bout du foot, 7e numéro, première saison. Analyse, commentaire, décryptage, pronostic. Bienvenue.
Bienvenue à toutes. Effectivement, vous êtes sur Mon Paris FM dans Au bout du foot avec notre ami Elay, avec Philippe Carnu, avec Ibrahima, avec Chekenza, avec Papa Guélé et avec notre ami du quotidien du sport.fr Stéphane Deux-Enclos. À présent, les amis, on va aborder le chapitre équipe de France. On va s'arrêter sur l'appelé Zaïre Emery. Chekenza, Zaïre Emery, on est tous unanimes là-dessus. L'enfant, il est costaud, il est balèze. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Mais qu'est-ce qu'il va nous apporter au niveau de l'équipe de France que l'équipe de France n'a pas?
Mais là, vraiment, moi, je pense que Deschamps, il veut juste donner une chance aux jeunes. C'est pour montrer vraiment que vraiment, si tu es un bon niveau et tout, tu peux postuler à une place. Mais Zaïre Emery n'est pas appelé pour être titulaire. Déjà parce que son profil, il y a Tchouaméni qui a le même profil que Zaïre quand on regarde et tout, défensif, tout ça un peu.
On rappelle que Tchouaméni entre-temps est blessé. Hein.
Ouais, Tchouaméni, ouais. Donc Tchouaméni il est blessé, mais Zaïre Emery il va pas postuler un poste de titulaire là. Quand il arrive, il serait peut-être dans la rotation. Même la rotation, ça serait difficile. Parce que c'est
mais
rare que
Tchouaméni est blessé, tu penses pas que Zaïre Emery va être titulaire là?
Non, je pense pas. Il y a Kamavinga et Rabiot déjà qui forment une bonne paire et tout. Parce que Deschamps, c'est pas quelqu'un qui prend les rixes et tout, non. Vraiment, il va vraiment voir le véritable niveau de Zaïre Emery dans le groupe. C'est-à-dire, Deschamps, c'est quelqu'un qui compte, pour qui le groupe compte beaucoup. Parce que tu vois, l'extension du groupe et tout ça, le comportement avec les autres, tout ça. Parce que lui, il veut un groupe sain pour avoir des résultats. Donc, pour lui, ça compte. Il veut juste montrer aux jeunes, aux autres jeunes, comme il a fait par le passé avec Boubacar Camara. Bon, peut-être Zaïre Emery, c'est le plus jeune joueur qui a été appelé en équipe de France depuis pas mal de temps, depuis Copa, si on regarde, depuis l'époque 50 jusqu'à maintenant, c'est le seul joueur qui a 17 et quelques mois qui a été appelé. Donc du coup, il veut montrer aux jeunes, mais si tu fais du bon travail, tu peux postuler une équipe en équipe de France.
Philippe,
c'est ça le message.
Philippe Carnu,
oui.
Zaïre Emery, c'est quoi sa plus-value?
Bah, sa plus-value, c'est surtout pour la suite, pour l'avenir. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a du monde en milieu de terrain. Il va falloir que, de toute façon, il s'adapte au système de jeu de l'équipe de France, notamment au positionnement de Griezmann, hein, qui bouge beaucoup sur tout le terrain. Oui, je suis un petit... je suis d'accord avec Kenza. Bon, il arrive dans le groupe, c'est logique. Après, il y a du monde. Bon, bah, il fera le temps de jeu qu'on lui demandera de faire. Et puis, il se positionnera dans un système d'équipe. Je crois que c'est surtout pour l'avenir que Deschamps se positionne. Il va, comme certains, comme Kamavinga, comme Pogba, on s'entend. Après, c'est à lui de faire sa place et puis son trou. Mais oui, il peut.
Papa Guélé, est-ce que c'est une surprise pour toi, Zahir Amri, en sélection nationale?
Moi, c'est pas une surprise, mais je dirais que pour l'instant, comme il a dit, c'est sur le long terme, c'est pour l'avenir.
Ah,
parce
oui.
qu'au jour d'aujourd'hui, oui. la France est une usine à milieu de terrain. Donc, une équipe nationale où il n'y a pas Kanté, il n'y a pas Pogba, mais on ne sent pas leur absence. Il a encore...
De la réserve.
Des paliers à franchir.
Mmh. Ibrahima n'est pas trop d'accord avec toi, visiblement.
Non, je pense que... Oui. C'est vrai qu'il y a énormément de bons joueurs français, on le voit tous les week-ends dans les 5 grands championnats. Mais au milieu de terrain, je ne suis pas forcément convaincu. Hein. Franchement, je ne vois pas de joueurs en particulier qui se dégagent. Enfin, on voit, à part les titulaires plutôt, je parle plutôt au niveau de la rotation, je ne vois pas spécialement de grands joueurs qui se dégagent. Donc c'est pour ça que Zahir Emery, je pense qu'il a une carte à jouer déjà sur le long terme, vu son âge. Mais surtout, sur les deux matchs à venir, Gibraltar, la Grèce, la France est déjà qualifiée.
Même Kamavinga n'est pas titulaire.
Ouais, c'est ça. Non, il y a un système de jeu quand même. Il y a un gars comme Griezmann qui se balade sur tout le terrain. Il faut jouer en fonction de ça. Hein.
Mm-hmm. Mais à la base, les deux...
D'ailleurs,
la semaine... Je pense que c'est pour l'avenir.
À la base, les deux réels, ça a été Tchouaméni et Rabiot.
Oui.
Parce que Kamavinga, jusqu'à...
Ouais, c'est pareil. Il joue arrière-gauche, il joue milieu, des fois.
Mais il n'a jamais été titulaire.
Non.
Les amis, le débat, c'est ensemble. C'est pas des apartés, là. S'il vous plaît. Eladj, au niveau de la discussion qu'on est en train de mener, Zahir Emery, c'est quoi, selon toi, le plus qu'il pourrait apporter à cette sélection de France ?
La percussion, il pourra apporter pas mal de choses, hein, la fougue de la jeunesse. Et moi, je pense que voilà, là, ça joue contre la Grèce et contre Gibraltar. Il peut tout à fait être titulaire. Aurélien Tchouaméni n'est pas là. Il peut tout à fait être titulaire. Rabiot, on l'appelle parce que c'est un habitué entre guillemets, etc. C'est un milieu voilà qu'on va appeler classique. Il ne fait pas un match. Il ne fait pas un début de saison.
Tony Truant quoi.
Oui, voilà. Il est correct sans plus. Voilà, il est correct sans
Après,
plus.
Après, il fait une bonne prestation quand même en équipe de France.
Voilà, oui, en équipe de France.
Est-ce qu'on a toujours retenu avec Deschamps, parce que même à un moment Griezmann il est en dessous.
Tu laisses finir là-dessus.
Mais voilà. maintenant on peut quand même tenter. Je pense que tu tentes Zahir Emery en vue de ses prestations. Tu le tentes contre Gibraltar. C'est pas voilà. Je pense que tu peux le mettre titulaire et tu peux lui donner 60 minutes facile pour qu'il les joue quoi contre le Gibraltar. Je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire normalement. Je dis bien normalement. Et voilà, comme dans le football on sait bien il peut avoir des surprises. Mais moi aujourd'hui Zahir Emery s'il est titulaire ça ne me surprendrait pas. Voilà, à part lui, Aurélien Tchouaméni, maintenant, comme tu l'as si bien dit, il est blessé, il n'est pas là. Lui, Kamavinga et Rabiot, oui, ok, Antoine Griezmann a besoin d'un truc, mais Antoine Griezmann, ça va plus être offensif. Zahir Emery, tu vas le mettre plus entre les deux. Du coup, Zahir Emery peut avoir sa place de titulaire. Et excuse-moi, mais aujourd'hui, Kamavinga est titulaire, ou du moins, en tout cas, ouais, il est titulaire. Parce que généralement, quand il joue à droite, c'est parce qu'il manque un joueur à droite. Sinon, dès qu'il n'y a personne, dès qu'il fait rentrer quelqu'un à droite, il le rebalance tout de suite au milieu de terrain, Kamavinga.
À gauche, plutôt,
Oui, à gauche. Et après, il le rebalance tout de suite au milieu de terrain. Kamavinga est un titulaire indiscutable.
Non, s'il n'a pas été, regarde les derniers matchs.
Indiscutable.
De l'équipe
de France. Indiscutable.
Non, je n'ai pas du même avis que toi. Mais regarde les derniers matchs. Il n'a jamais commencé et terminé un match au milieu de terrain. Ouais. Si tu prends les 5 derniers matchs de l'équipe de France avec la Coupe du Monde. Non, mais tu peux me dire
que Kamavinga
est titulaire.
Il n'est pas titulaire, surtout en match officiel.
Non. Selon moi.
Non, moi je te dis, selon moi. Titulaire, dis-moi que Upamecano est titulaire, Griezmann est titulaire, mais
non, je t'ai dit selon moi, selon moi, Kamavinga est titulaire indiscutable en équipe de France. Oui, selon moi.
J'ai une question.
C'est ce que je dis.
Mais à la place de qui?
À la place de qui, voilà.
Il peut jouer à la place de tout le monde.
À la place de Rabiot.
Bien sûr. J'enlève Rabiot.
Donc tu mets Tchouaméni et Kamavinga.
Je mets Tchouaméni et Kamavinga.
Ouais, pourquoi ça se tente?
Bah oui, mais c'est toi, mais ça une bonne paire déjà.
Et Griezmann juste devant. Faut...
D'ailleurs, on va faire certainement la semaine prochaine, hein, si l'actualité nous le permet. On va faire un focus quand même sur un joueur dont on ne parle pas suffisamment assez, alors que son talent n'arrête pas de grandir. C'est Antoine Griezmann, un véritable monstre du football français.
Un joueur d'équipe.
Ouais, vraiment. Et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. On va faire un gros focus sur Antoine Griezmann. Mon cher Stéphane Desenclos. Zahir Emery, c'est vrai que dans le passé on a vu beaucoup de joueurs de son âge, peut-être un peu plus âgés certes, mais jeunes tout de même, qui ont fait des allées et venues pour enfin disparaître des clubs, voire même de la sélection, mais aussi des clubs, j'ai envie de dire. Est-ce que ce Zahir Emery, tu y crois sur du long terme?
Oui, non, moi, non seulement j'y crois beaucoup, on en a parlé la semaine dernière, je vous avais... on avait regardé ensemble ses stats, par exemple, et il était en avance sur tout, par exemple, par rapport à Kylian Mbappé. Moi, je pense que c'est clairement le Kylian Mbappé du milieu de terrain. Maintenant, ce que tu disais, Malik, la question, ce qu'il va apporter en équipe de France, personne n'a dit, mais il va apporter son âge, sa fraîcheur, même si l'équipe de France est jeune, hein. Elle est déjà très fraîche, elle est jeune. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on va dire que la place à laquelle il postule, c'est celle de doublure d'Aurélien Tchouaméni. C'est-à-dire qu'il se rapproche beaucoup d'Aurélien Tchouaméni dans le jeu et tout. Je pense que Tchouaméni est encore un ton au-dessus, mais donc déjà là, il n'est pas là ce soir, et pour aujourd'hui, pour cette sélection. Et quand on dit qu'il peut débuter, moi je pense que bien sûr qu'il peut débuter, parce que je vois mal, pour ma part, mettre Didier Deschamps, mettre la paire Rabiot-Camavinga de gaucher au milieu de terrain dans son système de jeu, quoi, en milieu de terrain ratisseur devant la défense. Donc ces deux opposés, c'est Youssouf Fofana et Boubacar Camara
et pour moi il est au-dessus
ces deux joueurs, et effectivement pour l'instant peut-être qu'il est au-dessus, mais
il est au-dessus.
On disait par rapport à Didier Deschamps, je pense que même c'est vrai que la particularité c'est que c'est Gibraltar, mais où Deschamps était quand même assez intelligent de peut-être pas lancer comme ça un jeune dès le premier match, même si c'est en titulaire. Et moi, je le verrais plus rentrer à une demi-heure de la fin et jouer par exemple une demi-heure. Et c'est vrai que.
Et après le match d'après, le mettre titulaire. Mais je suis sûr qu'il le mettra titulaire sur l'un des deux matchs.
Ouais, mais il peut très bien même le faire, mais ça serait pas trop du Deschamps. Mais il peut très bien effectivement le faire là. Et moi, je suis pas trop. Je sais pas qui avait ce discours, parce que ça y a eu pas de moi, mais je suis pas trop. Didier Deschamps, il calcule pas. Didier Deschamps, il veut gagner. Il prend les meilleurs. Le reste, il en a rien à foutre.
Ouais, non, il veut gagner quand même avec un peu de.
Avec la cohésion dans le groupe.
Avec parcimonie quand même. Hein. C'est pas on jette tous les pions.
Il veut pas gagner avec parcimonie.
Il est structuré, le garçon.
Exactement. Ce qu'il veut, il est structuré et il sait ce qu'il veut. Ça veut dire que je ne crois pas une seule seconde que Didier Deschamps prenne Zahir Emery pour montrer aux jeunes que la porte est ouverte et que les bons jeunes peuvent arriver en équipe de France. D'abord, il n'a pas besoin, puisqu'il y a déjà énormément de jeunes joueurs dans cette équipe de France. Il y en a déjà énormément, donc il n'a pas besoin de faire appel à Zahir Emery. S'il va choper le capitaine de Thierry Henry, le gars qui a 17 ans et 8 mois pour le prendre, c'est tout simplement parce que en ce moment, en l'absence de Tchouaméni, quoi, avec le groupe qu'il a, il pense qu'il n'y a pas plus fort que lui pour en tout cas être dans les 23.
Et il le mérite tout simplement. Hein, on va faire abstraction de l'âge et tout simplement. Oui, Papa Guélé, on peut plus là-dessus.
Pourquoi on se pose pas aussi la question pour dire qu'il y a peut-être la lumière du PSG aussi qui fait qu'il a été appelé?
Non, mais il est bon.
Non, j'ai pas dit qu'il n'est pas bon. Ouais, mais comme il est déjà à la lumière.
Moi je pense pas que la question se pose.
Quand on l'appelle, il va pas griller aussi l'hierarchie. Il y a l'hierarchie en équipe nationale.
Après,
il est un espoir. Donc, du coup, quand tu as un espoir, et après les espoirs, il n'y a que vraiment l'équipe.
Lui, il a dit qu'il peut le faire jouer titulaire. Il y a une hiérarchie à suivre avec Deschamps.
Oui, oui. Je crois.
Ouais, mais, c'est ça. Ouais, il y a une hiérarchie à suivre.
Bien sûr.
Déjà, il y a une hiérarchie à suivre. Donc,
déjà, Deschamps, il va pas le lancer comme ça.
Il va le faire rentrer en cours de match.
Il rentre en
et,
cours.
Et le second match, il peut le mettre titulaire. Il y a, en tout cas, je verrais mal ne pas le mettre titulaire sur les deux matchs. Et maintenant, ce que je suis en train d'expliquer, il y a une hiérarchie. J'ai pas dit que le prochain Euro, Zaire Emery a sa place titulaire, indiscutable. Ou même il est dans les 23. Non.
Il peut avoir des blessés.
Ah non, oui. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est pas ce que je dis. En 11 normal ou tout le monde est convoqué, je le mets pas titulaire, Zaire Emery, et je pense que Didier Deschamps n'est pas assez fou aussi pour le mettre titulaire. Je dis pas ça.
Moi,
je dis
déjà,
juste
je veux
que
pas,
là, quoi. Il a sa chance d'être titulaire pour un match, même s'il joue 60 minutes. Je pense contre le Gibraltar ou contre la Grèce, tu le mets pour que lui-même s'expérimente. Le premier match, non, peut-être pas, et encore ça reste à voir, mais le deuxième match, tu peux le mettre titulaire.
Là où je peux te rejoindre, Papa Guélé, justement, le fait que Zaire Emery est convaincu quand même dans les matchs au niveau de la Ligue des Champions a favorisé aussi son appel. Oui, oui. On serait resté uniquement dans le championnat de Ligue 1.
Il aurait jamais été appelé.
Ouais, peut-être qu'il aurait pris encore un peu plus de temps. Mais le fait d'avoir convaincu d'une certaine façon en sélection, du moins avec le PSG en Ligue des Champions, a favorisé aussi la convocation du jeune Zaire Emery. Les amis, on va partir du côté de la Première Ligue avec Manchester United. Manchester United, bien qu'ayant gagné ce week-end, se porte pas bien du tout. On a vu un peu sa piètre prestation face à Copenhague en Ligue des Champions. On regarde aussi les différents résultats week-end après week-end, match après match. Ça ne va pas du tout du côté de Manchester United. Les compositions d'équipe changent tout le temps. Est-ce que l'entraîneur actuel est l'homme de la situation? Que manque-t-il visiblement à cette équipe de Manchester United? On revient juste après. Au bout du foot, s'il te plaît, Chakenza, un peu de discipline sur le plateau. On a repris au bout du foot. Il est 21h36 dans les studios de Montparis FM. On va évoquer justement la Première Ligue. Si vous avez constaté, ça chauffait même avant que je prenne la parole. Manchester United est au plus mal de sa forme. La victoire de ce week-end ne va pas justement cacher la misère de ce club. Que nouveau le Manchester United depuis le départ d'Alex Ferguson? Mon cher Ibrahima, est-ce que tu peux nous faire un topo rapide sur la saison de United cette saison?
Alors Manchester United cette saison, c'est 18 matchs, 9 défaites, 9 victoires, 25 buts marqués toutes compétitions confondues, 30 buts encaissés toutes compétitions confondues, dernier de sa poule de Ligue des Champions et 6e de Première Ligue.
Sixième de Première Ligue.
C'est ça.
Ouais.
Dernier de sa poule en Ligue des Champions.
Et 9 victoires pour 9 défaites en 18 matchs sur tous.
18 matchs.
C'est équilibré.
Si les gens me demandent de faire moins de bruit. Ouais. Merci. Rapidement, les amis. Mon cher Philippe Carnu.
Oui.
United. On est tous nostalgiques.
Ah oui, on est loin de Ferguson, ce club qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Bah, de toute façon, c'est un déclin qui était depuis quelques années. On avait un club qui était un petit peu moins bon depuis quelques années. Donc je ne sais pas, c'est peut-être la politique du club, je ne sais pas, les recrutements. Je sais pas. Mais enfin, c'est sûr qu'on est loin de l'époque glorieuse de Manchester.
Ibrahima, réaction sur United pas.
Ça fait déjà quelques années, depuis leur dernier titre, il me semble que c'est en 2013. Mmh. Et depuis, c'est tout simplement du n'importe quoi, que ce soit au niveau des recrutements. On a l'impression que chaque saison, on change de stratégie, de plan.
Ouais.
On ne sait pas où ça va. Il y a eu énormément de changements de coach aussi. On a tout eu, Mourinho, Ten Hag, Solskjaer aussi. Les résultats, ils-mêmes. pour revenir maintenant sur cette année, c'est très incohérent. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque nouveau match, nouvelle composition, des joueurs achetés très cher qui ne confirment pas. Sancho, Anthony, d'autres encore. Oljoun encore, ça va, je suis plutôt convaincu. Bruno Fernandes, c'est la seule bonne recrue que Manchester a fait depuis toutes ces années. Mais sinon, pour le reste, que ce soit en défense, au milieu de terrain, c'est très incohérent. On ne sait pas où ça va et visiblement, cette saison, ça ne va pas s'arranger.
Stéphane, est-ce qu'on pourrait avoir ton avis sur ce Manchester United qui ne nous donne pas satisfaction?
Ouais, tout à fait. Bah, écoute, moi, je reprends effectivement ce qu'a dit Ibrahima, paraît très, très sensé. C'est-à-dire que en fait, on a le profil type de l'équipe qui n'arrive pas à avoir les résultats qu'elle veut avoir et puis qui en fait fait un peu n'importe quoi, change d'équipe tous les matchs, recrute n'importe quoi. Alors, même moi, j'avoue, j'ai du mal à suivre. Maguire, c'était le pire des pires, mais le pire des pires en début de saison. Et ils n'ont pas réussi à le vendre ou ils sont pas mis d'accord. Du coup, maintenant, on a Maguire qui joue et Varane qui est revenu depuis quand même 2-3 matchs et qui continue d'enchaîner les matchs sur le banc. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Tous les cas sont très compliqués. Et il y avait dernièrement, je me rappelle, je n'ai plus son nom parce qu'ils sont beaucoup en Angleterre à donner leur avis des anciens joueurs, à donner leur avis sur le club. Et il y en a un qui disait, il parlait d'Anthony Martial, il disait, regardez Anthony Martial, vous avez payé un joueur avec les bonus, je crois que c'est 70 millions en telle année, en tant d'années, regardez le nombre de buts qu'il a mis. Et c'est là qu'il y a vraiment un problème au niveau du recrutement de Manchester United. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de buteur. Ils marquent très très peu de buts. Je crois qu'ils ont la 12e, 13e attaque de première ligue, quoi. Ils marquent des 8 premiers, c'est la seule équipe qui a une différence de buts négative. Ils marquent très peu de buts. Et puis ils ont rien. Bon, maintenant ils sont cette année d'une année, même depuis l'année dernière, il y a aussi un élément dont il faut parler qui les plombe, c'est la vente du club, quoi.
Oui,
il y a
ça aussi. Oui. Stéphane, oui. Essaie de voir au niveau. Je crois que tu reçois un peu trop de messages. Hein. Le quotidien du sport est très sollicité. Du coup, on a un effet sonore qui est pas très très agréable à l'antenne. Essaie de regarder ça. Ouais, d'ici bon, ça y est, d'ici là, je vais passer la parole justement.
Sur l'ordi, j'ai coupé. Là,
ah ben voilà. D'ici là, je vais passer la parole à notre ami Eladj. United, t'es aussi dans la nostalgie comme nous, du grand United d'antan?
Je suis dans la nostalgie, mais maintenant moi je pense qu'il faut laisser du temps à Erik ten Hag, contrairement à ce que Cheikh Kenza disait, ce n'est pas l'homme de la situation.
Non, Cheikh Kenza n'a pas encore parlé, ça c'était votre débat.
Ah, d'accord,
hors antenne.
En off, oui, voilà. D'accord, mais c'est ce qu'il va dire, j'anticipe, parce que j'aurais aimé parler après lui, mais c'est ce que je dis, j'anticipe. Et moi je te donne ce qui est factuel, l'entraîneur qui a eu les 30 premières victoires en premier sur ses 50 premiers matchs avec United en championnat, c'est Erik ten Hag, devant Sir Alex Ferguson. Merci monsieur. Donc à partir de ce moment-là, comment dire ça n'est pas l'homme de la situation, etc. Comme punchline. Si c'était un mauvais coach. Je ne suis pas d'accord du tout. Donc renseigne-toi chez Kenza avant, tu vois.
Chez Kenza, allez, tu peux répondre.
Là vraiment tu me parles de stats en disant que oui, après Sir Alex Ferguson, c'est lui qui a remporté. Oui, c'est bien, les stats sont bonnes, mais là je te parle à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, Manchester United ne séduit pas par le jeu. Pourtant, ce qui faisait le Manchester de Sir Alex Ferguson, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il avait une équipe qui était joueuse. C'est-à-dire qu'il avait déjà une équipe déjà qui avait un mental qui n'abdiquait pas, quel que soit le match. Parce que quand on regarde bien la finale de 99, il le gagne dans le Fergie Time. Après, c'était une réputation. On avait le Fergie Time et il avait des joueurs qui étaient des joueurs de ballon. Et ces joueurs étaient issus d'où? De son académie à lui. Quand tu regardes un Paul Scholes qui a fait une carrière, comme on t'a dit, un Ryan Giggs, il a été formé par qui? Par Sir Alex Ferguson, David Beckham, tu vois. Donc, c'est pas pareil. Moi, je pense que Erik ten Hag n'est pas l'homme de la situation. Parce que là, on lui a laissé 2 saisons. Sa première saison, déjà, il s'est qualifié.
Il est arrivé en cours d'année pour commencer. Et là, il n'a pas fini. Donc, il n'a même pas fait une saison complète encore.
L'année dernière, il arrive, il se qualifie par un coup de chance.
D'accord. Et ils prennent une coupe. Hein, et il arrive dans un moment critique. Très, très critique. Il arrive dans un moment très, très critique avec un United en reconstruction.
destruction totale.
Mais tu peux me donner la force d'Eric Entax. Sa force c'était quoi? Sa force c'était d'avoir un football, un beau football,
un beau football,
un beau football.
Et vers les débuts, je l'ai vu. Et vers les débuts, je l'ai vu.
Non, non, ça, non.
Si moi je l'ai vu.
Moi je suis arrivé à Manchester. Manchester, moi j'ai jamais regardé un match de Manchester où ils ont fait une phase constructive, c'est-à-dire le ballon, des sorties de balle propre.
Mais elle a dit au-delà de tout aujourd'hui. Elle a dit au-delà de tout, c'est qu'aujourd'hui les résultats n'y sont pas. C'est factuel ça.
Même le contenu, mais il y a pas que les résultats, même le contenu de jeu.
Non, mais parce qu'après dans le contenu, dans le jeu.
Attendez. Chez Kenza, tu peux me rappeler United, ils ont fini combien tième dernière saison?
Avant celle-là?
Là. Pourquoi ils sont qualifiés en Ligue des Champions? Ils ont fini combien tième?
Ben si, quand même, ils ont été dans le top 4.
Non mais d'accord. Pour finir dans le top 4 de Première Ligue, déjà tu ne peux pas dire que t'as fait un mauvais match. T'as fait une mauvaise saison. Déjà, pour commencer déjà, Là, ils sont 6e, ils sont dans le top 6 de Première Ligue encore. Je ne vois pas encore de... Oui, dans le jeu, ça n'est pas flamboyant.
United joue le titre.
Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Chekenza, laisse-moi terminer. Ça fait un moment que United ne joue plus le titre. Et quand Mourinho et même écoute-moi, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Et quand
Mourinho même termine, c'est désagréable pour ceux qui nous écoutent.
Et quand Mourinho même termine 2e avec United et qui dit c'était l'une de mes plus belles performances avec cette équipe, les gens le regardaient en mode c'est un fou. Or que non, il a fini 2e avec ce United là. Et fallait le voir vraiment l'équipe. C'était pas dans le jeu, ça n'était pas ouf. Maintenant, on sait bien qu'il faut du temps pour installer un beau jeu. Eric Ten Hag l'a montré avec Ajax. Avec l'Ajax, quand ils battent le Real Madrid, quand ils battent les autres équipes,
c'est même pas les mêmes.
Ils nous ont montré.
L'Ajax, ils ont montré.
Maintenant, moi je dis qu'il faut juste pas les mêmes. Attendez, du temps. En termes de statistiques. Comme je t'ai dit, c'est le premier entraîneur à avoir gagné 30 matchs de championnat avant même Sir Alex Ferguson. Donc maintenant, quand je te dis qu'il lui faut encore laisser du temps, tu ne peux pas dire que ça n'est pas l'homme de la situation.
Bon, on verra bien dans
tous
les cas.
Mais quand même, on ne laissera pas tout le temps, on ne laissera pas 10 ans, vraiment.
T'as réagi là-dessus.
Au bout de deux saisons, moi, je vois rien de concret.
Ça fait pas encore
une réaction. Réaction rapide, Ibrahima, par rapport à United.
Non, je tenais juste à signaler que non seulement ça joue pas très bien, et en plus au niveau du recrutement, enfin on voit que c'est pas ça. Enfin, Onana, Anthony, c'est deux joueurs qui ramènent de l'Ajax en plus. Bah
oui,
c'est pas ça
c'est
du
des
tout.
Anciens, c'est des anciens.
Papagele, United.
United, il y a deux facteurs. Si Eric Ten Hag, on l'appelle à Manchester à cause du beau jeu. Mais le beau jeu, et lui-même il nous a confessé qu'il a fait un copier-coller de la SEC d'Abidjan, l'académie, avec autant de Yaya Touré.
Ouais, avec Jamagui, c'est d'ailleurs
une formation. C'est pour ça qu'il impressionne.
Dans le micro, s'il te plaît.
C'est pour ça qu'il impressionne et on l'appelle à Manchester. Et la conclusion, c'est que Manchester d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de suivi d'après ceux à Ferguson.
Oui.
Donc Manchester est craint d'antan. C'est tout.
Donc tu veux dire que Manchester joue avec son histoire,
voilà,
en fait,
hein, passé,
tout
ouais.
simplement, son passé, glorieux. Tout ouais. simplement. Et en même temps, là, il a relevé quelque chose aussi qui est factuel, c'est que malgré tout, Manchester est qualifié pour la Ligue des Champions, donc ça suppose qu'ils ont fini au moins parmi les quatre premiers la saison dernière. C'est un élément qu'on ne peut pas rejeter non plus, les amis. Hein.
C'est un minimum quand même pour Manchester, qui ne joue même pas d'ailleurs, qui ne joue plus le titre. Un grand Manchester qui ne joue plus le titre, il y a déjà problème.
Depuis longtemps d'ailleurs. Ouais. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait pensé...
Il y a 10 ans, excuse-moi Pépé Guélé.
La petite titrée de la première
Excuse-moi Pépé Guélé. Voilà, c'est l'histoire. Ok, il y a 10 ans, est-ce qu'on connaissait Manchester City?
Manchester City,
non. On les connaissait de nom, ils n'avaient aucun titre. Oui. Voilà, ils ont explosé. Maintenant,
si,
maintenant, excuse-moi, mais maintenant, il faut se mettre à la page. Il y a, comme Newcastle, maintenant, qui font partie du top 4. Newcastle, ils étaient entre la relégation, la Championship et la Première Ligue. Maintenant, ils jouent la Ligue des Champions, ils mettent 4-1 au PSG. C'est donc ça maintenant la réalité. Non. Maintenant je t'explique que maintenant le football
avancer,
il a changé et que ça augmente.
Ma conclusion.
Il faut qu'on avance. Il nous reste à peine un quart d'heure. On a l'Olympique de Marseille. On a l'Olympique Lyonnais. On a également Kolo Muani versus Gonzalo Ramos. C'est des sujets intéressants. Quel choix pour quel résultat avec le concours de notre ami Jason? On va se lancer le jingle.
Au bout du foot. Quel choix pour quel résultat?
Alors les amis, est-ce que c'est une inquiétude légitime justement de voir aujourd'hui l'Olympique de Marseille à 11 points du podium en Ligue 1? Je veux des réponses franches, directes. Philippe Carnu.
Bien sûr que c'est une inquiétude, parce que bon, on est Marseillais ou pas, peu importe, mais Marseille, ils font quand même partie des grands clubs de football français, ils sont pas à leur niveau, ils devraient être à un niveau au-dessus, largement supérieur, donc c'est une grosse inquiétude, ouais. Je pense que la saison, elle est déjà presque bien ratée. Hein.
Mm-hmm. Ibrahima, tu es inquiet pour l'Olympique de Marseille aussi, parce que c'est quand même un des fleurons du championnat de Ligue 1.
Ah bah, très inquiet hein, quand on voit les performances, surtout offensivement, quand on voit que c'est... On frôle la catastrophe, quoi. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, de Vitinha en passant par Ilimandia ou Ismail Assar, c'est très très faible.
Il faut oublier de préciser aussi l'homme de la situation.
Aubameyang aussi. Mais non, mais sincèrement, il y a.
Tu vas pas le dire.
Y a ça, les amis, chacun a son temps de parole. Hein. Parce que là, on grignote pour rien. Là. Oui, termine, s'il te plaît.
Très peu de victoires en championnat, donc il y a franchement de quoi s'inquiéter. Et même au niveau du jeu, c'est très faible et c'est très inquiétant pour la suite. On attend de voir ce qui va se passer, hein, mais pour l'instant, je suis pas rassuré.
Bah, chacun ça, maintenant, c'est à ton tour.
Mais Marseille, oui, je suis inquiet.
T'as intérêt à tout dire. Hein. Là, c'est ton micro. Là,
là je suis inquiet parce que Marseille, en début de saison, ils n'avaient pas un entraîneur. Parce que là, moi, je pense que Marcelino Garcia, je ne sais pas où il ramène ce mec. Mais là, maintenant, ça va avec Gattuso. Je pense que si on lui donne du temps.
On va demander à Stéphane de couper son retour parce qu'on a beaucoup de bruit.
Je pense que les choses vont évoluer. Mais là, je suis très, très inquiet et du fait que vraiment Marseille remonte, c'est un peu mitigé par moment. Les matchs, c'est pas accompli. Parce que tu vois, je pense que dans l'engagement et tout ça, et par moment un peu, ils font des bouts de match, ils font des premières mi-temps où ça se passe bien. Les secondes mi-temps ne sont pas abouties. Soit c'est la première mi-temps qui est catastrophique. En seconde, ils reviennent. Donc je pense que le plan de jeu vraiment de Gattuso, il n'a pas encore pris forme. Et là, je pense que oui, c'est un bon entraîneur, lui. Parce que déjà, quand il est arrivé, il y a un message qui a
été... Toi, tout le monde est bon, hein?
Non, je dis pas... Non,
Luis Enrique... Tous les entraîneurs sont bons.
Non, par contre, il y a des entraîneurs. Eric Hag, comme ça, moi,
j'aime pas... Tu trouves qu'il est bon?
Non, Eric Hag, moi, je l'aime pas.
L'entraîneur Lionel Grosso, tu trouves qu'il est bon?
Non, Grosso, non, j'ai jamais dit que Grosso est bon. J'ai juste dit que Grosso...
Dans les podcasts, ici, mon ami.
J'ai juste dit que Grosso, déjà, pour ce qu'il a montré en série B, c'est pas mal, mais lui donner l'Olympique Lyonnais, il faut du temps. Quand même, Eric Ten Hag, moi je l'aime pas, cet entraîneur. Parce que ce qu'il a fait à l'Ajax, mais l'Ajax c'est une école de formation.
Donc est-ce que tu es inquiet pour l'Olympique de Marseille?
Très inquiet.
Très inquiet aussi. Papa Guélé.
L'état de Marseille est critique parce que quand il n'y a pas Marseille, le niveau du championnat n'est pas élevé. Parce que Paris.
Stéphane Desenclos, l'ordinateur, s'il te plaît.
Quand il n'y a pas Marseille, il n'y a pas de concurrence. Donc nous devons tous s'inquiéter.
Voilà. On est d'accord là-dessus. Eladj. Est-ce que tu es inquiet pour l'Olympique de Marseille en tant qu'amateur de football?
Oh, bien sûr que je suis inquiet. Moi, d'habitude, je prends du plaisir à voir Marseille jouer. Là, cette saison, j'en ai pas pris du tout. Pourquoi tu rigoles, Malik? Je vois que ça te fait rire. Non, je sais pas.
Comme ça,
Moi, je prends du plaisir en temps normal. Je prends du plaisir à regarder Marseille jouer. Et là, j'en prends plus. Je regarde, ce sont des purges. Le match contre Lens, ça a été une purge. Ils ont eu une défaite parce que c'est tout ce qu'ils méritaient. Parce que Lens ont été quand même meilleurs malgré dans cette purge. Il y a une équipe qui s'est défait un peu de l'autre, c'était Lens. Et franchement, voilà. Et je vais continuer à insister sur l'ami de Cheikh Kenza, Aubameyang, qui a eu encore une action à la 90 plus 3 minutes où il a juste à mettre son pied en opposition et il y a but. Il n'a pas réussi à le faire. Voilà, Aubameyang m'inquiète vraiment. Et de plus en plus, Vitinha, ok. Mais Vitinha, moi, je pense qu'il faut le laisser un peu plus de temps. Mais Aubameyang, c'est vraiment une catastrophe.
Il se bat avec Vitinha, est-ce que c'est suffisant?
Non, c'est pas suffisant.
Pour ma part, on a beaucoup critiqué Lyon ici, mais je pense qu'en Ligue 1, Marseille est au même niveau. Et je suis impatient de voir l'Olympico, qui promettant.
Pour le maintien.
Parce que
de mémoire, c'est le 6 décembre, hein, c'est bien ça. Stéphane Desenclos,
oui.
L'Olympique de Marseille, est-ce que tu es inquiet?
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec la dernière réflexion. Là, on a beaucoup critiqué Lyon. Il faut savoir, rendez-vous compte, par exemple, hein, si c'était aujourd'hui, si jamais Lyon gagnait à Marseille, il serait à 3, il y aurait 3 points de différence.
Il y a 6 points d'écart entre les deux, hein, avec un match en moins pour chacune des deux équipes.
Maintenant, je suis pas du tout d'accord. Alors voilà, pour la première fois de la soirée, pas du tout d'accord à quel âge. C'est que moi, je dis sans détour que je pense que Vitinha est la plus grosse fraude, la plus grosse, la pire fraude de l'Olympique de Marseille au 21e siècle. Il peut pas y avoir pire pour moi au 21e siècle.
Et j'apporte de l'eau à ton moulin, j'ai l'impression que Vitinha lui-même, il le sait.
On s'est beaucoup moqué, tout le monde s'est beaucoup moqué, et les Marseillais en premier, hein, de Kostas Mitroglou. Il a des stats bien meilleures que
ne serait-ce que dans l'allure, je préfère Vitinha à Mitroglou. Hein, ne serait-ce que dans l'allure. Pour les yeux du foot.
Je crois que
pas tous ensemble. Oui, Stéphane.
C'est quelque chose qui passe complètement inaperçu dans le football. Aujourd'hui, parce qu'on en parle très très peu sur les partout, je veux dire, c'est quand même un truc, c'est c'est mythique, quoi. C'est acheter un joueur à ce prix-là, et je fais le parallèle avec, même je disais que donc de la pire recrue de l'OM, et je disais presque, je pense quasiment une des 3-4 pires recrues de la Ligue 1 depuis le 21e siècle.
Non, t'abuses. Franchement, tu te laisses aller. Là, Stéphane, tu te laisses vraiment aller.
On va remonter à Napoléon, là.
Non, tu te laisses aller. Là, il y a eu une flèche aller. Non, faut arrêter. Faut arrêter du coup.
Attends, je termine. Pour moi, il se bat pour le titre avec Hugo Ekitike. Donc c'est exactement le même, c'est le exactement le même genre de truc. Sauf que je pense peut-être qu'il
voilà, est là. Bon, en tout cas, on a bien entendu ton avis, mon cher Stéphane. On va donc avancer.
C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. On l'a bien compris. On ne rajoute pas, s'il te plaît, Stéphane. Il est déjà pas bien le garçon. On va parler justement de l'Olympique Lyonnais à présent, des amis. Hein. Hier, Lacazette n'a pas été titulaire d'entrée et pourtant. L'OL a remporté sa première victoire en Ligue 1, première victoire de la saison. Est-ce qu'on peut espérer une continuité justement de cette performance lyonnaise? Est-ce que c'est un déclic, mon cher El Hadj?
Bien sûr. Moi, je le disais, je le maintiens encore, Lyon vont se maintenir. Et je l'ai dit, ça fait un moment, maintenant, voilà, ça disait bien, c'est fini. Non, moi, je pense pas que c'est fini. Là, maintenant, ils sont plus qu'à 4 points, si je me trompe pas. Ils sont plus qu'à 4 points de la zone non
renée. 4 points de Lorient.
Voilà, 4 points de Lorient à 5 de au moins 5-6 équipes qui sont bloquées, tous à 12 points. Du coup, non, c'est largement faisable. C'est largement faisable. Et je pense que Lyon vont se maintenir plus que jamais. Après maintenant, dire que Lacazette n'a pas été titulaire, est-ce que ça a été un déclencheur ou pas? Lacazette était sur le terrain quand il y a eu le but, quand même.
Non, mais il n'a pas été titulaire au niveau du symbole, au niveau du signe envoyé, justement.
Oui, mais Grosso ne sait même plus quel signe envoyé. Il ne sait même plus quel signe envoyé.
Mais en même temps, tu dis que l'Olympique Lyonnais va se maintenir.
Mais bien sûr.
Alors que tu n'as pas confiance en
l'entraîneur. Mais j'ai pas confiance en Grosso. Mais quoi qu'il arrive, Lyon vont se maintenir. Maintenant, moi, je disais juste qu'avec un autre coach, Lyon aurait pu viser un peu plus haut. Mais avec Grosso, ils vont viser le maintien et rien de plus.
Papa Guélé. L'Olympique Lyonnais optimiste ou pas?
L'Olympique Lyonnais, quand il parle de maintien, bon, on reste sur le maintien, on va pas aller plus loin, on reste sur le maintien, c'est tout.
Pour toi, c'est possible?
Voilà, c'est tout, que le maintien.
Que le maintien, pas plus que ça, hein, dans tous les cas.
Ouais, Kenza. Mais moi, j'avais déjà dit qu'ils allaient se maintenir. Donc
mais attends, ils sont pas encore...
Je crois que Kenza, il oublie qu'il y a les podcasts ici.
J'avais déjà dit qu'avec Grosso et tout ça, qu'ils peuvent se maintenir. Donc moi, je tiens ma parole, ils vont se maintenir et tout. Je suis optimiste.
Ibrahima, toi aussi, optimiste pour l'Olympique Lyonnais?
Franchement, pas du tout. Je pense pas qu'il fait se maintenir, je sais pas, mais je les vois pas non plus. Je les vois pas se maintenir, en fait, tout simplement. Je pense qu'ils vont descendre. Je sais pas si vous avez vu le match hier, mais c'est quand même. Ouais. C'est toujours aussi nul, en fait. Hein. J'ai pas vu de progrès. Hein.
Ah non, c'est ce que je dis. Hein. Dans l'animation.
Dans le jeu, l'animation.
Ça n'est pas ouf du tout. C'est avec Grosso.
C'est
très grave, même plus quoi.
Et c'est pour ça que j'attends beaucoup le match entre Lyon et Marseille pour savoir qui sera le plus nul entre les deux. Parce que ça me fait peur.
À 11 contre 10 en plus.
Et à 11 contre 10.
Pendant quasiment.
Mais bon, après, cette semaine, j'ai mis bien faire ça, on dirait.
Philippe Carnu.
Dès le début, je suis pas optimiste pour Lyon. Même s'il y a eu cette victoire, je ne suis pas certain qu'ils puissent se tirer d'affaire.
Rapidement, Stéphane.
Ouais, mais je pense pareil. Bon, hein, je parie toujours qu'ils vont direct en Ligue 2. Il suffit de voir ce qui s'est passé.
Le contenu n'est pas terrible.
C'est terrible.
Mais vous avez vu un peu ce qui s'est passé dans le match? Je vous rappelle
Rapidement, Stéphane.
Avant dernière minute, Grosso s'apprête à faire rentrer Lovren. Au dernier moment, il change d'avis. Oui. Il fait rentrer un autre joueur.
Lovren, il change pas d'avis. Lovren gueule, oui.
C'est pas normal. Je veux rentrer. Lovren rentre. 10 secondes après sur le terrain,
il a failli provoquer un pénalty.
Il est passé à deux doigts du pénalty.
Oui, bien sûr.
Quand il est rentré, on est passé. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas.
C'est vraiment pour dire que Grosso n'est pas l'homme de la situation. Et ça revient à moi.
Mon cher Jason, on va terminer par un 30 secondes chrono, les amis, parce qu'on n'a pas le temps de débattre là-dessus. Je vais vous demander justement quel est votre choix à l'attaque, au niveau de l'attaque parisienne entre Gonzalo Ramos et Kolo Muani. Vous serez l'entraîneur justement du Paris Saint-Germain. Quel serait votre choix? Rapidement, en 30 secondes chrono, on va commencer avec Ibrahima. 30 secondes chrono. Kolo Muani, Ramos. Pourquoi?
Je vais repartir sur Kolo Muani quand même. Il a été recruté très cher pour ça. Je pense que Ramos a été recruté en tant que doublure. Après, c'est vrai qu'en ce début de saison, les deux se valent. Hein. Les deux sont pas bons. Maintenant, je pense qu'il faut prendre Colomoigny et faire un système de jeu autour de lui qu'il mettra en bonne position pour pouvoir aller le plus loin possible. Mais Gonçalo Ramos, c'est pas possible.
Donc Colomoigny, un point. On va justement aller du côté de notre ami Philippe Carnu. Philippe Carnu,
ouais, c'est difficile,
Gonçalo Ramos, Colomoigny. 30
ouais.
secondes chrono,
ouais.
c'est parti.
Ah bon, c'est parti. Bah écoute, ouais, c'est difficile, mais bon, je vais quand même garder Colomoigny. Effectivement, je serais d'accord. Ramos, c'est plus pour jouer les doublures.
Bon, c'est, ça a été tranché très vite. Chacun voilà.
Ouais,
30 secondes chrono. Ouais. Pourquoi Colomoigny? Ça
mais
fait quoi
Colomoigny, parce que déjà, il a été appelé pour ça. Parce que le PSG, vraiment, ils avaient besoin d'un attaquant de pointe qui pourrait faire l'affaire. Moi, je pense que Colomoigny peut faire l'affaire. Mais là, le début de saison, je pense qu'il n'est pas trop dans les conditions. Et comme j'ai dit, l'équipe aussi manque de créativité. Parce que Colomoigny, c'est un joueur aussi qui a besoin d'espace par moment et tout ça. Donc là, vraiment, il n'est pas encore dans le bon tempo, je pense. C'est pourquoi les buts s'attardent à venir.
30 secondes chrono pour notre ami Papa Guélé. Colomoigny ou Ramos?
Colomoigny, mais Colomoigny, il faut l'utiliser sur les côtés. Il faut l'utiliser sur les côtés. Parce qu'il va vite. Et on a vu avec Didier Deschamps, il a plusieurs fois utilisé Mbappé dans l'axe. Pourquoi ne pas essayer? Parce qu'il n'y a pas les ravitailleurs. Donc, il faut mettre Colomoigny sur le côté.
Pour toi, Colomoigny est plutôt sur le flanc droit, le flanc droit plutôt de l'attaque parisienne. Ça fait 4 sur 4 pour Colomoigny. Hein. Mon ami Eladj, 30 secondes chrono, Colomoigny ou Ramos, et pourquoi?
Bah, Colomoigny, hein, moi, c'est aussi simple que ça. Comme je le dis, il est mal servi. Il est pas, on le sert pas, on ne l'alimente pas. On lui donne pas de bons ballons. Et voilà, moi, je pense que c'est en faute des deux ailiers qui mangent un peu trop de ballons. Et qui, voilà, on voit bien ses buts. Hein. Ses buts, ce sont juste des frappes de soit Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé que le gardien repousse et il la met au fond du filet. Mais il a aucune passe en profondeur, il a aucun face-à-face. Voilà, et dès qu'on l'a mis à droite contre Marseille, on a vu la différence, tout ce qu'il a apporté. Franchement, donc, que ça soit à droite ou moi en pointe, je pense qu'il fera l'affaire et je pense que. Colomoigny est loin de là.
Alors on va terminer avec Stéphane. Colomoigny ou Ramos? Ouais. 30 secondes.
Colomoigny aussi, pour les mêmes raisons. Après, c'est une question d'organisation tactique. Je trouve qu'on ne voit pas assez dans ce Paris Saint-Germain les joueurs changer de place. Dembélé, il est toujours bloqué à droite. Alors qu'on sait que, par exemple, Dembélé, il peut jouer aussi 9. Hein, il peut jouer 9 ou 9,5. Mbappé, ben, ça, c'est pas moi qui vais le dire. Bien sûr, il peut jouer 9, il peut jouer. Et c'est trop stéréotypé. Donc, il faut effectivement qu'il bouge, qu'il aille un peu sur le côté. Mais c'est une question, à mon avis, c'est un problème.
Merci Stéphane Desenclos, c'est fini. Mais vous avez tous été unanimes. Hein. Colomoigny a été élu justement à l'attaque, à la tête de l'attaque parisienne, en lieu. À la place du fatigué. En lieu et place de notre ami Ramos. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Stéphane Desenclos, merci à toi. Eladj, merci beaucoup. Philippe Carnu, Ibrahima, Chakenza. Papa Guélé, bienvenue à toi. Hein. C'était ta première aujourd'hui. Ouais. Tu as aimé?
Ouais, c'est super.
Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Jason Lindor réalisait Au bout du foot. On se retrouve lundi prochain et je retiens une chose, c'est que vous êtes tous des chauvins. Bye.
20h30, 22h, Malik Eudi. Au bout du foot, 30 secondes chrono. Au bout du foot, quel choix pour quel résultat? Retrouvez chaque lundi Malik Eudi et toute la team d'Au bout du foot. Entre 20h30 et 22h sur mon Paris FM.